Alors, bon, normalement, je pense que vous savez pourquoi vous êtes là, pour qu'on discute un petit peu de la scénarisation des enseignements à distance et en blended learning ou en hybride, selon on discutera un petit peu du vocabulaire. Donc, c'est un atelier que j'ai préparé avec Gilles, voilà, qui a eu une vie en fait avant. En fait, c'était un atelier qu'on avait déjà proposé il y a un an ou deux, voilà, qui a évolué un petit peu, et c'est sûr qu'avec le contexte actuel, il a pris une autre dimension. Ne serait-ce que le nombre de participants aujourd'hui. On vous en reparlera un petit peu. Donc pour se présenter rapidement, je vais commencer puis je donnerai la parole à Gilles. Moi, je suis responsable de l'équipe TIS. Projet autour du numérique, autour de la pédagogie. On a des rôles effectivement d'animation de la plateforme de cours en ligne, on a des rôles aussi d'atelier de formation, de production de ressources. Il y a vraiment pas mal de rôles différents. Et juste pour la petite histoire, en fait, moi j'étais quand même enseignant-chercheur pendant 11 ans à l'école de chimie. Voilà, donc je connais aussi cet aspect-là, je ne suis pas que sur le côté accompagnement.
Willy, on demande de monter le son. Alors, je ne sais
D'accord.
pas si ça concerne uniquement moi, ou enfin toi, ou si.
Non, non, c'est Willy. Willy, on l'entend 3 fois moins fort que Gilles.
D'accord.
D'accord.
Alors, je vais faire ça. Voilà, normalement, ça devrait être mieux là.
C'est mieux.
Ça va comme ça? Donc voilà, donc du coup, Gilles, je te laisse te présenter.
Donc, moi, je suis ingénieur pédagogique à l'école des Ponts. Et mon expérience concernant l'enseignement à distance en particulier, elle est liée à une double casquette. D'abord par le fait que je chapeaute depuis 5 ans en fait tous les projets liés à la fois à la dimension numérique et à la dimension pédagogique. Donc ça peut être les SPOC, ça peut être les MOOC, ça peut être aussi les serious games, on va dire le e-learning en général. Et tout particulièrement avec la période de confinement qui nous concerne en fait. Je coordonne aussi l'évaluation des enseignements et donc on a pu recueillir un certain nombre de pratiques d'enseignants, de retours sur lesquels on va essayer de capitaliser un petit peu aujourd'hui.
Okay. Alors, on a aussi en fait avec nous une bonne partie de l'équipe Racine. Donc Racine, si vous ne connaissez pas trop, c'est un groupe qui s'est formé il y a maintenant plusieurs années au sein de ParisTech, qui avait pour vocation effectivement à proposer un catalogue de formation et un accompagnement voilà, autour de la pédagogie, on va dire enseignement supérieur. Voilà, le groupe a évolué petit à petit, s'est élargi même maintenant au-delà de ParisTech, et on continue à proposer régulièrement des ateliers de formation. On en reparlera un petit peu aussi dans la journée sur les ateliers à venir. Donc, en tout
Voilà.
cas, merci pour eux, même s'ils sont discrets, c'est eux qui vont nous aider, entre autres, à animer un petit peu, à collecter les différentes questions et à nous aider un petit peu dans l'animation.
Voilà, donc nos gentils modérateurs.
Alors. Hop. Alors,
Sur la
pour...
partie objectif, alors on a trois types d'objectifs aujourd'hui. D'abord, identifier les différences entre le présentiel et le distanciel en termes d'enseignement et d'apprentissage. Donc, avant d'aborder la partie scénario à proprement parler, en fait, on va s'attarder un petit peu sur les spécificités de chacune de ces modalités et voir un peu leur impact concret sur les pratiques enseignantes et sur la manière dont l'étudiant a ou l'élève a d'apprendre. Deuxième objectif, vérifier la cohérence de son dispositif pédagogique au regard de ces modalités. Donc là, en fait, ça veut dire la question de l'adaptation d'une modalité à l'autre au regard des objectifs, de l'évaluation ou des activités pédagogiques. Comment on fait en sorte que le dispositif pédagogique soit adapté à la présence ou à la distance? Et enfin, l'idée de proposer, pour le troisième objectif qui va nous occuper aujourd'hui, proposer un scénario pédagogique qui tienne compte des avantages et contraintes des modalités à distance et hybride pour assurer la meilleure condition d'apprentissage aux étudiants. Alors ça, c'est en fait la deuxième partie du titre, c'est l'idée d'hybridation, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans une transposition de la présence ou est-ce qu'on va essayer d'aller plus loin et de tirer parti en fait d'un certain nombre de caractéristiques qui peuvent être des opportunités par rapport au distanciel. Alors, Willy? te laisse présenter le déroulement de l'atelier. T'es en sourdine, Willy.
Bah, j'avais coupé le micro parce que je sais que les espèces de clics en permanence sont désagréables, mais effectivement, du coup, j'ai oublié de le rouvrir. L'atelier, donc, on l'a pensé en quatre phases, en fait. Quatre grandes phases. Donc, une première phase qui est l'idée, effectivement, de vous faire vivre un peu un webinaire, donc avec un grand groupe. Hein. Vous êtes 94 en ligne à l'heure actuelle. Donc, là où on va vous présenter un petit peu le cadre de référence. Ensuite, on va vous proposer une activité individuelle à distance pour vous approprier en fait ce contenu, pour pouvoir retravailler dessus, réfléchir du coup à vos propres pratiques et à vos projets. On vous proposera une troisième partie, donc ce sera dans l'après-midi, où là on va vous faire travailler du coup à partir de ce que vous aurez travaillé le matin en petit groupe pour échanger, pour voir effectivement qu'est-ce que vous partagez, qu'est-ce que vous ne partagez pas comme évolution, comme choix, pourquoi. Enfin voilà, on va vous faire travailler un petit peu sur ces sujets-là. Et puis on reviendra après en grand groupe, voilà, pour débriefer un petit peu sur d'abord l'expérience que vous avez vécue, parce que c'était important pour nous que cet atelier ce soit aussi une expérience où vous puissiez toucher du doigt ce que ça fait d'être, on va dire, apprenant derrière un écran, avec ce que ça peut avoir de bon, ce que ça peut avoir de moins bon. Voilà, et puis du coup, peut-être un petit peu, voilà, pour aussi vous faire des retours un peu sur la façon dont on a préparé l'atelier. Voilà un petit peu, les grandes parties de la journée. Donc il y a eu un choix effectivement aussi de vous mettre des activités à distance. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul à ce moment-là, mais ça veut vraiment dire que du coup, on aura des interactions un petit peu différentes, entre autres par rapport au forum. Alors, pour l'atelier, en fait, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir d'abord un espèce de fil conducteur, en fait, qui est le site pédagogique, donc qui est en fait un site sous Campus. Pardon, Campus, c'est le nom interne chez nous, mais c'est un Moodle. L'idée, c'est d'avoir un endroit où vous pouvez toujours revenir, où vous allez retrouver le fil rouge, les différentes parties, les documents, les différentes activités, les liens, que ce soit l'espace où vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau, de tout l'atelier pour qu'on puisse y répondre. Et c'est un lieu qui a aussi vocation à vivre après l'atelier. Je vous montrerai rapidement un petit peu les éléments directement sur le site. Et le deuxième outil, le groupe d'outils qu'on va utiliser, c'est pour les séances, on va dire, un peu en live, où on va effectivement essayer d'échanger, où là on va utiliser un outil de classe virtuelle qui est Zoom, qui est celui que nous on a choisi au MINE, associé à un deuxième outil qui s'appelle BookLab, qui normalement est plutôt à vocation pour interagir avec les étudiants en amphi, mais en fait qui marche très bien aussi à distance. Alors je vais essayer de vous partager.
Non, là, t'es en contrôle. Alors, attends, je te désactive le contrôle.
Donc, voilà. Alors, est-ce que... Du coup, j'ai pas de retour, là. J'aurais dû... Est-ce que vous voyez bien, effectivement, ma fenêtre ?
On voit.
D'accord. Alors, donc ça, c'est l'atelier, le cours sur lequel vous arrivez une fois que vous êtes connecté. Donc pour vous connecter, en fait, ça dépend beaucoup des établissements. C'était une des difficultés un peu techniques parce que vous êtes plein d'établissements différents, donc du coup des authentifications différentes. Donc soit effectivement vous avez une adresse institutionnelle et vous passez par le bouton fédération d'identité Renater pour vous connecter. Soit je vous ai créé, normalement on a échangé là-dessus, un compte local qui vous permet directement de rentrer sur la plateforme. Une fois que vous arrivez là, vous allez avoir d'abord les annonces. En gros, les annonces sont les messages que vous avez reçus par mail. Donc, vraiment les informations un petit peu importantes pour se connecter. Donc, on envoie en fait à tout le monde. Vous avez le forum général de l'atelier. Donc, c'est là où on va vous demander en fait de poser vos questions au fur et à mesure de l'atelier. En dehors un petit peu des questions qui sont directement en lien avec, par exemple, le webinaire, où là, on va vous demander plutôt d'utiliser le chat de Zoom pour que ce soit plus fluide. Mais par contre, toutes les questions générales qui n'ont pas besoin d'une réponse directe, vous pouvez les poser sur le forum général. Au contraire, je vous encourage vraiment à y aller. J'ai déjà posté un petit peu des messages. Donc, tout simplement, vous avez ici un bouton « Ajouter une discussion » et vous pourrez du coup commencer à poser vos questions et à réagir les uns aux autres. Et nous, tout le long de l'atelier, un petit peu moins sur la partie webinaire, on ira voir ce qu'il y a dessus pour pouvoir vous répondre. Ensuite, donc vous avez le lien pour le Zoom. Et ensuite, vous avez les différentes parties de l'atelier. Donc, vous avez d'abord le syllabus, donc qui reprend un petit peu voilà, tout l'esprit de l'atelier. Vous pourrez regarder en détail. Vous avez le programme. Et après, vous avez les différentes parties de l'atelier en tant que tel. Donc, vous aviez la partie présentez-vous. Donc ça, on en parlera tout petit peu. Je peux vous montrer tout de suite pour savoir qui vous êtes. Parce que nous, on s'est présenté. Mais... Donc, vous êtes à peu près 2/3 d'enseignants-chercheurs et à peu près 1/3 d'autres statuts. Donc, j'imagine que dedans, il y a en particulier beaucoup d'enseignants de langue qui n'ont pas forcément des statuts d'enseignants-chercheurs. Ça peut être aussi des gens qui font de l'accompagnement professionnel, par exemple, des choses comme ça, qui ne sont pas directement sur les statuts. En termes de discipline, donc il y a une relativement bonne représentation. Hein, on a toutes les disciplines. Et avec effectivement bah, deux pics plutôt autour effectivement des tics et des langues. Voilà. Et ensuite, il y a effectivement tous vos petits messages pour expliquer un peu vos attentes. Donc, j'ai recompilé un petit peu tout à l'heure. Ce que j'ai noté, c'est beaucoup de messages qui sont formulés sous la forme d'une évolution. C'est-à-dire un souhait effectivement d'évoluer, de mieux faire, de transformer son enseignement. C'est intéressant.
Alors, est-ce que Marwan Moussa pourrait couper son micro? Merci.
Toutes mes excuses.
Pas de problème.
En fait, ça fait partie de la vie et de la joie des visios. Donc les autres termes qui reviennent beaucoup, c'est effectivement les souhaits d'avoir des choses pratiques. Donc ça, on va essayer tout au long de vous proposer des choses aussi. Et puis aussi d'avoir une ouverture, c'est-à-dire de découvrir des nouvelles choses. Ça revient beaucoup. Voilà, envie de voir ben, effectivement d'autres façons de faire, un peu de s'inspirer. Donc voilà, donc d'où l'idée aussi de faire les petits groupes de l'après-midi pour que vous puissiez échanger et du coup vous influencer, vous ouvrir sur les pratiques des autres. Il y a des demandes aussi par rapport à des ressources et des références théoriques. On n'en aura pas beaucoup en fait, je dirais pendant l'atelier parce qu'on a plutôt voulu faire des choses pratiques. Mais par contre, c'est des discussions qu'on peut avoir sur le forum. Et puis du coup, on va aussi avoir un espace vraiment spécifique ressources sur le site sur Moodle. Donc, je vous encourage vraiment à y aller et à jouer le jeu. C'est-à-dire vraiment aller poser vos questions dans le forum, à le parcourir, voilà, pour que ce soit effectivement dynamique. Alors, Gilles, est-ce que tu peux me repartager du coup les slides, s'il te plaît?
Oui, attends. Voilà. Alors, est-ce que tu peux les faire défiler?
Je n'ai pas la main.
Non, ok, je te la redonne. Voilà. C'est bon.
Alors, je vois une petite question. Est-ce qu'on aura les slides? Oui, vous aurez les slides et même la vidéo normalement du webinaire. Alors. OK. Donc, sur le webinaire, deux grandes parties. Une première partie, voilà, partage un petit peu du vocabulaire, des concepts. Donc, c'est effectivement bah, qu'est-ce que ça change? Et puis du coup une deuxième partie qui est plutôt voilà, en position comment préparer mon cours, qu'est-ce qui va changer, comment je vais voilà, réfléchir à la cohérence de mon dispositif, comment je vais planifier mes activités, qu'est-ce que je vais choisir comme activité, comment je vais changer mes supports éventuellement, comment je vais accompagner l'étudiant. Donc voilà un petit peu les deux grandes parties. On passera probablement assez vite, hein, je pense que voilà, on ne s'est pas donné beaucoup de temps parce qu'on ne va pas rester très longtemps dans un mode comme ça, unidirectionnel. Donc vous aurez de façon les slides et vous pourrez revenir un petit peu sur entre guillemets, les points de détail qu'on aura survolé. Et on se garde un temps à la fin du webinaire pour vos questions que vous pouvez déjà commencer à poser dans le chat voilà, pour pouvoir avoir quelque chose de plus dynamique et plus interactif dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors, première partie, ben, du coup, qu'est-ce que ça change pour les élèves et les enseignants? Alors, il faut d'abord qu'on discute un petit peu du vocabulaire. En fait, historiquement, ce qu'on appelait les formations hybrides, ça opposait vraiment le présentiel d'un côté et puis la distance de l'autre côté, mais plutôt en forme asynchrone ou synchrone. Ce qui est apparu en fait avec le Covid et les pratiques un peu dans l'urgence, c'est une modalité un peu différente, alors qu'on appelle souvent hybride, mais
Je ne sais pas si l'enregistrement est lancé.
Normalement, oui. Moi, j'ai un petit bouton qui me dit qu'il est lancé.
Il est lancé, Saïda.
C'est bon ?
Oui, vas-y.
Alors, ce qui est apparu un petit peu comme modalité, comme nouvelle modalité, c'est alors, ce que maintenant les Suisses et les Québécois appellent le comodal. C'est l'idée, effectivement, de faire à la fois du présentiel et de la distance synchrone. C'est-à-dire qu'en fait, on fait quelque chose qui est un mix entre le présentiel ici et le distance synchrone. Donc, en fait, ça fait plein de modalités différentes. Donc, nous, on va essayer de garder un petit peu la terminologie. Effectivement, en particulier par rapport au synchrone, asynchrone. Donc là, en fait, on se réfère au temps. Est-ce qu'on est en même temps en train de faire l'activité, que ce soit enseignant et étudiant, ou juste étudiant, hein, ou est-ce qu'au contraire, on se donne une latitude temporelle, et puis il y aura la deuxième unité, qui est effectivement l'espace. Est-ce qu'on est au même endroit, ou est-ce qu'on est effectivement à distance ? Juste une petite phrase, parce que j'aime bien, en fait, que je reprends d'un conseiller pédagogique d'un autre établissement, c'est que l'inverse de la présence, ce n'est pas la distance, c'est l'absence. C'est-à-dire qu'on peut très bien être tout à fait présent à distance, mais par contre, ça suppose effectivement de se donner des bonnes conditions.
Alors, on a voulu aussi revenir un peu sur quelques a priori par rapport à l'enseignement à distance et nuancer peut-être la vision que certains enseignants peuvent avoir par rapport au fait que c'est quelque chose d'assez nouveau pour eux. Et donc, la première idée, c'est que la distance, ce n'est pas vraiment une vraie modalité d'enseignement. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'enseignement à distance, il ne date pas d'aujourd'hui, il date d'il y a près d'un siècle, voire même peut-être plus tôt. Et il y a différentes itérations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'histoire de l'enseignement à distance, il est lié aux outils et aux possibilités techniques à travers différentes itérations. Par exemple, la toute première itération de l'enseignement à distance, c'est l'enseignement par correspondance. Tout le monde connaît le CNED. Et le but premier de l'enseignement à distance, ce n'est pas de remplacer le distanciel. C'est de pouvoir enseigner justement dans des conditions en fait, où le présentiel n'est pas... Ce n'est pas de remplacer le présentiel, c'est d'enseigner dans des conditions où le présentiel n'est pas possible. Donc, par exemple, quand on a des histoires de distance géographique ou quand on a des populations qui sont isolées, comme par exemple des populations carcérales ou des populations qui ont des emplois du temps contraints, comme par exemple les populations de formation continue. Donc, premier objectif de la distance, c'est bien d'enseigner dans des conditions où le présentiel n'est pas possible. Ensuite, au début des années 2000, on a eu Internet et là, on a commencé à parler de e-learning de manière plus générale avec de nouvelles possibilités par rapport au support de cours, par rapport aux différents supports, donc multimédia, et par rapport aussi à la communication qui s'est étoffée tout d'abord avec les chats, les forums et puis aujourd'hui avec la visioconférence qui s'est élargie avec le succès qu'on lui connaît. Et puis aujourd'hui, on est un peu dans une époque charnière où on parle d'hybridation parce qu'on se rend compte que avec la complexité de notre époque où tout le monde doit gérer son emploi du temps, et bien la distance et la présence peuvent se compléter en fait. Et donc, on peut imaginer un prolongement peut-être dans le futur où on aura la réalité virtuelle et on aura une espèce de boucle qui va s'accomplir finalement, où la réalité virtuelle nous donnera en fait toutes les conditions d'interaction du présentiel, auquel cas on sera à la fois à distance et en présence. Donc, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Deuxième idée, le présentiel est plus performant que le distanciel en termes d'apprentissage. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas la modalité qui fait la qualité en termes d'apprentissage pour les élèves, c'est le scénario pédagogique. Il vaut mieux avoir un scénario à distance qui entraîne l'élève à à des tâches en profondeur et activement qu'un scénario en présentiel qui va se contenter d'être transmissif et qui ne va pas finalement aider l'élève à apprendre en profondeur et à transférer ses connaissances. Bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, la base de la pratique enseignante, c'est le présentiel. Et effectivement, il y a deux contraintes qui sont difficiles à gérer pour l'enseignant par rapport au présentiel et sur lesquelles on va revenir. C'est la question technique et c'est la question de l'autonomie dans l'apprentissage de l'élève, qu'on va redéfinir un peu plus tard. Troisième idée qu'on pourrait avoir, c'est de dire finalement, avec la pluralité des ressources en ligne, ça entraîne finalement l'élève à être autonome. Avec les MOOC, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme ressources en ligne, l'élève, finalement, il est plus autonome. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'enseignement en ligne, en fait, l'autonomie de l'élève, c'est toujours un prérequis. Ça veut dire qu'en fonction de votre public, vous allez avoir des élèves qui seront capables d'organiser leur travail, vous aurez des élèves qui seront capables de persévérer et de réguler leur motivation. Et c'est ça qui constitue en fait l'autonomie de l'élève. Mais ça varie effectivement en fonction du type de public. Donc, on a, on va dire, dans les écoles d'ingénieurs, un public qui est habitué à travailler, à avoir des bonnes habitudes de travail, des bonnes stratégies de travail, et qui donc est plus à même de gérer les contraintes de l'enseignement à distance que des publics peut-être universitaires en licence ou alors des publics dans le secondaire qui, on le voit, ont eu beaucoup plus de mal à gérer la problématique de l'enseignement en ligne. Donc vraiment une importance de gérer la spécificité du public par rapport à l'autonomie.
Alors, du coup, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été publiées relativement récemment. Sur le vécu des élèves pendant le confinement. Je pense en particulier à deux études, je vous mettrai en référence sur le site Moodle, de l'Université de Neuchâtel et l'Université d'Avignon, qui ont fait vraiment un travail important d'analyse. Et on peut en sortir du coup un certain nombre de conclusions qui sont intéressantes. La première chose, c'est concerne l'organisation du travail. En fait, apprendre à distance, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. C'est vraiment une charge cognitive qui est difficile. Et il y a une question de relation qui est différente. Il y a des méthodes de travail qui sont différentes. Donc, ça a vraiment été quelque chose de lourd. Par contre, ce qui a été souvent apprécié, c'est le fait de pouvoir apprendre à son rythme et justement de casser un peu ce rythme, je dirais, un peu artificiel des heures de cours, qui, dans un autre sens, par contre, peuvent être aussi une sorte de motivation, justement, il faut que je me lève pour aller en cours, alors que sinon, je me lève pas forcément. Donc, il y avait toujours un peu les deux aspects. Ça fait ressortir aussi l'importance de la communication. Le manque de communication avec l'enseignant, c'est-à-dire pas savoir effectivement qu'est-ce qu'il y avait à faire, quelles étaient les échéances, savoir où j'en suis, les questions de feedback, ont vraiment généré beaucoup de stress et de complexité, en particulier pour tout ce qui a été examen. D'un autre côté, il y a des relations qui sont construites aussi avec beaucoup de reconnaissance en fait des étudiants par rapport aux enseignants qui sont beaucoup investis sur cette période-là. Et qu'on réussit finalement assez rapidement à proposer des solutions viables et intéressantes. Les retours en termes de scénarios pédagogiques aussi, c'est que les enseignements qui se sont en fait un peu réduits à une somme de documents mis à disposition, en fait, ils ont été relevés comme étant peu intéressants, peu motivants. Alors qu'au contraire, les enseignements qui ont fait appel à des outils numériques et des situations un peu différentes, le numérique a permis de varier les situations. Là, par contre, ça a donné des situations beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus appréciées, y compris en termes d'apprentissage. Pas juste en termes de « c'était sympa », mais vraiment plus efficace, on va dire.
Alors, si on aborde ça d'un point de vue un peu plus théorique, en fait, il y a trois grands éléments qui vont vraiment changer par rapport à l'apprentissage à distance pour l'étudiant ou par rapport à ce que ça implique pour l'enseignant. Évidemment, comme on l'a dit, la première chose, c'est les conditions matérielles. Alors, les conditions matérielles, pour l'étudiant, ça veut dire concrètement deux choses. Ça veut dire que d'abord, il faut s'assurer, c'est des basiques, hein, mais il faut s'assurer que les étudiants aient tous un équipement qui soit adapté, y compris par rapport à des outils qu'on voudrait qu'ils utilisent. Et puis, ça veut dire aussi des conditions matérielles. Ce n'est pas que le matériel informatique, c'est aussi le lieu de vie adapté. Ça veut dire, est-ce que vos étudiants, ils ont la possibilité d'être dans un lieu calme, dans un lieu isolé, où ils peuvent se concentrer et réaliser toutes les tâches que vous leur donnez. Donc, il y a cette question des conditions matérielles. Ensuite, il y a la question de l'organisation du travail. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de déconstruire un petit peu justement les différences entre la présence et la distance, puisque l'étudiant, en fait, en présence, il a tendance à organiser son travail en fait en fonction de l'emploi du temps, en fonction de la révision qu'il a à faire entre deux séances de cours, des notes de cours qu'il a prises, et puis aussi en fonction des évaluations. C'est-à-dire que on sait très bien la tendance des étudiants à réviser au dernier moment, parce que ce qui compte pour eux, c'est la validation de leur module ou de leur enseignement. En distance, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que l'enseignant va pouvoir prévoir des activités qui sont à la fois synchrones, c'est-à-dire soit reproduire ce qui se passe en présentiel via des classes virtuelles, soit proposer d'autres rythmes de cours en asynchrone qui demandent à l'étudiant donc de revoir complètement sa façon de travailler et de gérer son travail, d'autant plus que l'emploi du temps, en fait, ça donne une visibilité de tous les cours par rapport, on va dire, aux phases synchrones et asynchrones. Et si on multiplie le nombre de cours que l'élève a géré à distance, ça représente véritablement un défi pour lui. Sur la motivation, il y a un certain nombre de choses qui motivent l'élève intrinsèquement quand il vient en cours. Il y a le fait d'abord que si l'élève ne se présente pas dans la salle de cours, on le voit tout de suite. Donc forcément, l'assiduité, c'est un élément, on va dire, qui le motive à marquer sa présence, en tout cas pour suivre d'abord la partie en présentiel. Mais il y a aussi toutes les interactions qui sont simplifiées par rapport aux questions qu'il peut poser à l'enseignant ou même aux interactions qu'il a avec ses camarades. Donc, tout ça, ça constitue un rythme qui, en fait, va faciliter la motivation sur la durée. Par contre, dans un cas comme celui du confinement ou plus généralement dans le cas des enseignements en ligne, l'élève qui est à 100% à distance, en fait, n'a plus ses contacts physiques et donc va vraiment devoir persévérer pour maintenir sa motivation. Une définition, en fait, de l'autonomie qu'on pourrait proposer, en fait, pour qualifier un petit peu concrètement ce que ça signifie pour l'élève, c'est de dire qu'un élève autonome dans l'enseignement à distance, c'est un élève qui à la fois est capable d'organiser son travail, sa charge de travail, mais qui, en plus, est capable de réguler sa motivation. Donc, on a vraiment une dimension ici qu'on appellerait métacognitive, c'est-à-dire le savoir apprendre à apprendre, donc sur les stratégies d'apprentissage de l'élève. Alors, si on transpose maintenant du côté de l'enseignant, on retrouve un petit peu les mêmes éléments, c'est-à-dire que du point de vue de la condition matérielle, cette fois-ci, la principale conséquence pour l'enseignant, c'est de devoir penser en amont les outils et les matériels informatiques, donc la question technique, c'est-à-dire d'anticiper à la fois la complexité technique des outils, mais aussi est-ce que finalement les élèves, la faisabilité, est-ce que les élèves pourront se fournir les outils que je prévois dans mon cours. Du point de vue de l'organisation du travail, en général, la scénarisation dans le présentiel, elle est implicite. C'est-à-dire que, en fait, les instructions et les interactions pourront être données in situ. Et dans la distance, la différence, c'est qu'il va vraiment falloir expliciter, en fait, tous les éléments du cours. Donc, que ce soit au niveau de la cohérence générale, qu'il va falloir adapter en fonction des modalités, sur le fait que l'enseignant a l'habitude de planifier ses activités en synchrone, mais aussi il va devoir penser à l'asynchrone et éventuellement repenser ses supports, on y reviendra tout à l'heure, de manière à ce qu'il soit autoportant et qu'il facilite en fait la compréhension pour l'élève. Et puis sur la motivation, la présence en cours, en fait, le grand manque des enseignants par rapport à la distance, c'est le fait de ne pas pouvoir, en fait, voir avec ce contact physique, ne pas pouvoir s'assurer en fait de la pertinence de l'action pédagogique. En présentiel, ils peuvent voir les visages des élèves, ils peuvent rapidement voir si finalement les élèves y comprennent ou qu'ils ne comprennent pas. Et en distance, ce n'est pas possible. Et donc, la distance, ça va forcer l'enseignant à trouver d'autres outils pour pouvoir accompagner l'étudiant et suivre en fait son activité en cours. Et donc, gérer l'autonomie des élèves, ça veut dire qu'il va falloir anticiper, en fait, se mettre plus à la place des élèves et anticiper en fait leurs difficultés en adoptant des postures qui peuvent aller de l'explicitation plus grande du dispositif à une véritable posture de tutorat en ligne qui peut porter sur le cours lui-même, sur la méthode ou même sur la motivation. On va vous demander on va faire un petit sondage WooClap pour voir comment vous vous positionnez par rapport à ces différentes questions. Willy? T'es en muet, Willy.
Voilà. J'ai toujours beaucoup de mal avec cette interface Zoom, avec les menus qui changent de place. Donc, on va vous proposer de vous mettre un petit peu en activité. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle WooClap, qui normalement est plutôt destiné à dynamiser les amphis, mais qui marche très bien à distance. Donc, on va vous demander de vous connecter sur l'adresse www.wooclap.com/racine-hybride. Et où vous allez pouvoir, dès que vous serez à peu près connecté, répondre à une petite question. Alors, merci effectivement pour le lien direct. C'est effectivement plus facile de cliquer une fois que quelqu'un l'a recopié. J'en profite, là, j'ai vu qu'il y avait commencé à y avoir quelques échanges là, sur le chat avec des réactions, des questions. Donc, je vous encourage vraiment du coup à continuer dans cet esprit-là parce que c'est des choses qu'on pourra discuter tout à l'heure. Voilà, on m'a demandé vite fait le code barre pour éventuellement se connecter directement. Alors, vous êtes 80 quelques. Alors, je regarde. Hop. Normalement, vous êtes 98 en ligne.
On me dit qu'il n'y a pas de vote en cours pour le moment.
Oui, c'est exact. Pour l'instant, on est vraiment juste sur la page.
D'accord.
De présentation et dès qu'effectivement on aura une bonne partie des gens, on a 92, donc on va pour 93. Excellent, très très bon taux de connexion. Donc on va pouvoir passer effectivement à la question. Hop. Donc normalement vous devez voir apparaître sur votre écran les trois questions, enfin les trois propositions. Ce qu'on vous demande, c'est effectivement de noter en fait du plus important au moins important. Donc c'est une échelle de 4, donc tant pis s'il n'y aura pas de 1 ou de 0. De mettre effectivement la note 4 pour l'aspect qui vous paraît le plus important. Et puis le 3 pour le moyennement important et le 2. Donc vraiment d'essayer de faire un classement. Et on va essayer de voir un petit peu finalement qu'est-ce qui vous semble prioritaire dans ces aspects-là. Je sais encore un peu de temps pour répondre. Donc, vous voyez que là, en fait, ici, j'ai effectivement le nombre de personnes qui ont répondu sur le nombre de personnes qui se sont connectées. Donc, ça permet de voir un petit peu où on en est de la participation. On est à peu près à la moitié.
Willy, excusez-moi, c'est Angé, c'est Linda. Bonjour, je suis sur la page de WooClap, mais il faut apparemment entrer un code.
Le code, ça doit être racine hybride.
Ah d'accord, merci beaucoup.
Vous avez, si vous ne l'avez pas vu, il y a le donc James qui a effectivement mis directement le lien dans le chat. Donc vous avez juste à cliquer dessus, normalement, pour l'ouvrir dans une nouvelle page. Alors, bon, j'en arrive à avoir déjà 70% de... Alors, c'est assez surprenant parce que vous êtes 99 en ligne et on est 104 connectés sur WooClap. On va commencer à regarder un petit peu les résultats. Donc, alors, les trois sont finalement assez serrés. Ce qui ressort majoritairement, c'est donc évidemment l'organisation des activités. Comment est-ce qu'on va effectivement transmettre le contenu, communiquer, donc plutôt en termes d'organisation. Le deuxième, qui est effectivement pour vous la motivation des élèves. Comment est-ce qu'on va, j'imagine, comment on va garder la motivation des élèves, la soutenir. Et puis, il y a effectivement quand même la partie matérielle qui reste relativement présente, hein, c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, comment est-ce qu'on va parler un petit peu des outils. Et donc du coup, ça rebondit un petit peu sur la question tout à l'heure que j'ai vue dans le chat. Alors, Gilles, est-ce que tu peux repartager les slides, s'il te plaît? Alors, donc maintenant, on va commencer à s'intéresser effectivement à la préparation des cours. Si, normalement, j'ai la main. Alors. Donc, le premier aspect qu'on va regarder, c'est de vérifier la cohérence pédagogique. Alors, la cohérence pédagogique, elle n'est absolument pas spécifique à la distance ou à l'hybridation. Elle est liée au concept qu'on appelle l'alignement pédagogique. Donc l'idée de l'alignement pédagogique, c'est vraiment en fait d'avoir une cohérence entre trois pôles qui sont les objectifs d'apprentissage, voilà, qu'on exprime généralement sous la forme de à la fin du cours, les élèves seront capables de, ou je serai capable de, qu'on peut décliner après sous différentes formes, un petit peu différents niveaux. Là, on a par exemple trois niveaux qui sont de la mémorisation, de la compréhension de concepts, de l'application ou de l'analyse. Donc, c'est des niveaux différents d'objectifs. On va chercher à l'aligner avec les activités pédagogiques qu'on va proposer. Donc, typiquement, est-ce qu'on va proposer de la lecture de support, des révisions? Est-ce qu'on va demander à faire des exercices? Ou est-ce qu'on va demander éventuellement des exercices plus compliqués, de type de faire une analyse, de résoudre des problèmes? Donc, ça, c'est important, effectivement, que les activités elles soient en lien et elles soient cohérentes avec les objectifs. Le troisième volet en fait, de cette cohérence, c'est l'évaluation, puisque ça fait partie quand même du rôle de l'enseignement, de pouvoir justifier à la fin de l'atteinte ou pas des objectifs. Et donc, il faut que cette stratégie d'évaluation elle soit bien entendu cohérente. C'est-à-dire, si je veux effectivement faire de l'analyse, faire juste répondre à des questions ou faire des QCM, ce ne sera pas suffisant. Si par contre, effectivement, mes objectifs sont des objectifs plutôt de mémorisation, de compréhension de concept, peut-être que je pourrais les tester effectivement avec un QCM. Donc ça, c'est vraiment du coup l'idée de l'alignement pédagogique. Et il faut le garder à l'esprit parce qu'effectivement, quand on va changer de modalité, pour différentes raisons, ça peut basculer et il faut en avoir conscience pour éventuellement réajuster ou choisir ses activités pour que ce soit cohérent. Si vous regardez des choses un peu dans la littérature sur l'alignement pédagogique, vous verrez peut-être que parfois on le présente un peu différemment. C'est que souvent, en fait, on commence par les objectifs d'apprentissage, parce que c'est vraiment la clé. Mais en fait, on traite l'évaluation juste après pour vérifier qu'effectivement les objectifs peuvent être testés. Puis une fois qu'on a choisi son évaluation, on peut définir aussi les activités qui permettent en fait de préparer à l'évaluation. Alors. Au niveau donc, du changement de modalité ou de l'adaptation en termes de modalité, il y a plusieurs points un peu de vigilance à avoir. D'abord, sur effectivement le type d'apprentissage qui sont visés. On n'aura pas les mêmes contraintes et les mêmes dispositifs. Si on vise des objectifs qui sont plutôt de l'ordre du savoir ou bien du savoir-faire, de l'application ou encore plus au niveau du savoir-être. Très clairement, ça va conditionner en fait des dispositifs un peu différents. le changement de modalité peut aussi poser la question au niveau matériel, qu'est-ce que je peux virtualiser ou pas, qu'est-ce que je peux faire en numérique à distance ou pas. Les salles de classe, le regroupement, finalement, on sait le faire relativement facilement de façon numérique, de façon virtuelle. Par contre, si vous avez des TP en chimie avec des manipulations, ça va être beaucoup plus difficile en fait de les virtualiser. Donc, ça suppose de vraiment bien poser la question de l'objectif pédagogique, parce que peut-être que vous pouvez, parce que votre objectif, il est finalement pas tant dans la manipulation que dans la compréhension, par exemple, du processus. Peut-être qu'il y a des outils, voilà, que vous pouvez déporter. Et après, il y a forcément la question du coût. Voilà, qui peut être économique parce qu'il y a besoin de matériel, de logiciel, qui peut être humain parce que ça va demander du travail, ça va demander de l'encadrement qui va avoir du coup, un coût humain. Ça a aussi un coût en termes cognitifs, dans le sens où ça va demander plus de réflexion, plus de concentration, il va falloir retrouver des infos à des endroits différents. Donc, tous ces processus-là, il faut en tenir compte quand on va changer effectivement ou adapter ces... changer en fait ces modalités d'enseignement.
Alors peut-être que on peut donner deux exemples donc de modifications au niveau des objectifs. Par exemple, pour un objectif de type savoir-faire, de type manipulation en labo où on prévoit donc que l'évaluation est in situ avec du matériel bien particulier, on peut baisser l'objectif d'un cran. Et dire que finalement, on va interroger l'élève sur la connaissance de la procédure à partir d'une vidéo réalisée en amont, sachant qu'effectivement, on a une partie du matériel qui n'est pas visualisable. Inversement, si on est sur la question des évaluations, on peut privilégier des questions qui sont plus complexes et plus qualitatives plutôt que des questions de vérification de connaissances pour éviter la triche, par exemple. Donc, à ce moment-là, si initialement vous aviez un objectif de niveau mémorisé ou comprendre, vous pouvez augmenter d'un cran et dire finalement, je vais essayer de voir l'analyse que les élèves font dans une évaluation de manière à éviter justement les risques de triche. Alors là, sur planifier la... Donc on va lancer la deuxième question sur la planification des activités.
Donc on va revenir sur Google App. Donc normalement, vous devez toujours avoir les résultats de la question précédente. Et on va passer à la question suivante. Donc, pour vous, quelle est l'approche que vous pensez adopter au niveau de l'organisation de vos activités pédagogiques ? Est-ce que vous arrivez déjà à vous projeter un petit peu dans le futur ? Quelle est la configuration qui, a priori, retient votre préférence ? Alors, je vais commencer à afficher les résultats. Je ne pense pas que vous soyez trop influencé. Bon, en tout cas, il y a une très très forte majorité qui se dégage. Et qui est plutôt sous une position d'ouverture, effectivement, sur une nouvelle organisation. Par contre, qui du coup, j'imagine pour vous, est un peu source de stress parce que ça veut dire que vous allez changer beaucoup de choses, ou en tout cas une partie des choses. Et donc, ça suppose un travail important et une certaine prise de risque. OK.
Je repartage l'écran. Ouais,
tu reprends la main.
Ouais.
Juste Gilles, il est 10h20.
Ouais.
Donc je pense qu'il y aura des parties, je pense qu'ils sont assez explicites dans le
document. Oui, bon, on passera plus vite sur certaines parties.
Comme prévu, en fait.
Ouais. De toute façon, on déborde toujours, ça c'est le... Alors. Vas-y. Willy, sur les temps pédagogiques.
Pardon. Alors, sur le triangle pédagogique, en fait, donc l'idée, c'était que vous ayez, vous donner un petit outil, en fait, rapide pour essayer d'identifier un peu une certaine typologie, en fait, des activités, en fait. Donc, en fait, c'est basé sur un travail de Jean Housset qui propose, en fait, un espèce de modèle pour les actes pédagogiques. Donc avec les trois sommets, donc le savoir, donc le contenu disciplinaire, l'étudiant et l'enseignant. Il propose là-dessus donc trois processus, donc le processus enseigner, le processus apprendre et le processus former. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que en fait, quand on a un processus comme ça, un acte pédagogique, on va toujours favoriser en fait un processus et en fait deux acteurs. Donc typiquement, le processus enseigner, on va favoriser l'enseignant et le contenu disciplinaire, mais l'étudiant, d'une certaine façon, est un peu neutralisé dans ce dispositif-là, dans ce processus-là. Au contraire, si l'étudiant est en train de travailler sur des exercices, quand il est en train de réaliser un exercice, du coup, c'est effectivement l'enseignant qui va être finalement un petit peu en retrait sur ce temps-là. Et dans ce qui en découle, c'est qu'on a toujours, en fait, un élément qui est un petit peu à l'écart, et en fait, le risque, c'est que ce soit toujours le même. Et donc, du coup, dans les recommandations de Jean Housset, c'est effectivement de varier en fait, les dispositifs, les actes pédagogiques, pour que effectivement, les processus ne soient pas toujours les mêmes. Qu'on ait effectivement une certaine variété des processus pour que ce que lui appelle le mort au sens du bridge ne soit pas toujours le même et qu'il ne devienne pas fou. Donc ça, je trouve que c'est un outil très facile qui permet voilà, d'imaginer un peu les situations pédagogiques en se demandant mais qui est effectivement mis à l'écart à ce moment-là et puis est-ce que éventuellement je peux en mettre un facilement à l'écart, est-ce que j'ai intérêt à le faire.
Concrètement, ça veut dire que dans un cours en fait vous alternez souvent entre deux positions qui est la position d'enseignement et la position de formateur. Enseigner, c'est-à-dire vous transmettez votre cours. Former, c'est que vous allez voir l'étudiant et lui donner des conseils. Et il y a toujours un mort qui est, enfin que vous contrôlez pas forcément directement, qui est l'apprentissage. Et dans la relation à distance, en fait, faut que vous anticipiez justement, vous mettiez un peu à la place de l'étudiant pour voir finalement quelles difficultés il va avoir par rapport à l'apprentissage, pour pouvoir soulager un petit peu la complexité inhérente à l'enseignement en ligne. Alors. Sur le scénario, comme on l'a vu, il y a un peu deux pôles, je dirais. Il y a deux extrémités. On schématise, évidemment. Deux extrémités, deux tentations, en fait. Et vous allez vous situer entre les deux en fonction, en fait, de vos contraintes individuelles, du temps dont vous allez disposer ou des postures que vous allez vouloir adapter. Alors, quand on parle de distanciel et que c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on vient juste de découvrir, la première tentation, effectivement, c'est la transposition. C'est-à-dire qu'on va essayer de conserver le même séquençage des activités. On va chercher à pallier finalement ce qui manque dans le présentiel avec des moyens techniques. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est des repères qui sont… On est un peu dans la zone de confort, c'est-à-dire que c'est moins de préparation à faire pour l'enseignant, c'est des repères d'organisation pour l'étudiant, pour organiser son travail, mais le danger de ça, c'est que ça risque de vous focaliser sur la technique et sur les outils, au détriment finalement de la prise en compte de ce troisième élément dont on parlait dans le triangle Doucet, qui est l'apprentissage, c'est-à-dire finalement, comment on va aider l'élève à rythmer, à mieux rythmer et à gérer sa charge de travail et sa motivation. L'exemple de cette transposition du présentiel, ben, c'est ce qu'on a connu avec le confinement, c'est-à-dire que devant en fait, l'urgence du contexte où on a dû passer en quasiment l'espace d'une semaine de tous les cours en présence à tous les cours à distance, on s'est retrouvé avec une pluralité, par exemple, de classes virtuelles où les élèves devaient à la fois gérer le fait de suivre 8 ou 9 heures de classe virtuelle ininterrompue et le fait que les enseignants essayaient de compenser le manque du distanciel en proposant plus de travail en ligne. Donc, si on additionne cours plus cours plus cours, ça faisait une surcharge de travail à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Alors, ce qui est gérable, on va dire, sur une semaine ou deux semaines, mais qui, sur plusieurs mois, avait tendance à fatiguer un petit peu tout le monde. Et puis, deuxième approche vers laquelle, je pense, la plupart d'entre vous veulent tendre, c'est l'approche hybride. Donc, comment on repense finalement son cours en synchrone et en asynchrone? Ça veut dire qu'on va chercher à modifier quelque part le séquençage traditionnel qu'on a par rapport au présentiel et chercher le compromis pour optimiser l'apprentissage. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, bah, on a quelque chose qui est plus adapté, hein, et qui tient compte des objectifs, des avantages en fait, du distanciel, c'est-à-dire plus de souplesse dans le rythme de travail, éventuellement plus de variété dans les activités, avec des supports qui peuvent être plus adaptés. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer, ça demande plus de préparation pour l'enseignant, ça demande du temps en amont, c'est de la complexité en plus à gérer dans le dispositif pédagogique. Évidemment, c'est de la prise de risque au final. Et l'archétype de ça, c'est une notion qui est revenue finalement, qui revient en force depuis quelques années, qui est la classe inversée. Alors, ce que je vais vous proposer pour qu'on voit un petit peu concrètement ce que ça donne, c'est trois scénarios types ou prototypes en fait, étant entendu que entre ces deux extrêmes, il y a une infinité de scénarios possibles. Mais c'est pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne. Alors, l'exemple 1, c'est le scénario type de la transposition du présentiel. Donc, ça, c'est quand on cherche à respecter en fait, l'emploi du temps et qu'on garde le schéma classique des activités. À savoir que finalement, on peut garder des séances en présentiel ou alors son substitut technologique, c'est-à-dire la classe virtuelle, où on aborde en général le cours. Donc, on va faire le cours pendant la phase en présentiel. Et pendant la phase synchrone, on va donner les devoirs, les DM, les bureaux d'études à faire aux étudiants. Donc là, on est dans un schéma, on va dire, relativement classique des activités. Si on passe à un autre scénario, donc on va garder l'organisation temporelle de l'emploi du temps, mais par contre, on va modifier le schéma des activités. Donc si on est dans un schéma de classe inversée, typiquement, on va mettre la théorie, en fait, lors des phases asynchrones, ce qui veut dire qu'il va falloir créer aussi des supports adaptés. Et par contre, on va profiter du présentiel ou de la classe virtuelle pour essayer de mettre en place des activités interactives du genre questions-réponses ou résolution d'exercices en groupe. Enfin, c'est pas limitatif, hein, ce que je raconte, évidemment. Mais en tout cas, on voit qu'ici, on a une première évolution qui est finalement sur le schéma des activités par rapport aux modalités. Un troisième exemple, ça va être celui du tutorat en ligne, où là, on bascule totalement sur de la distance, où on va se dire finalement, les élèves vont avoir un programme d'activité à réaliser en asynchrone, donc avec un syllabus qui va leur détailler en fait toutes les activités qu'ils vont devoir faire en asynchrone. Donc, soit par exemple suivre des polycopiés ou des vidéos un peu sur le genre des MOOC, répondre des questionnaires en ligne ou faire des devoirs ou des projets. Et puis, où finalement, on va saupoudrer ces activités asynchrones en fait, de moments de rencontres synchrones. Alors, et c'est là où on a plus de souplesse, c'est que ça peut être à la fois finalement des moments de distance qui peuvent être en plénière, c'est-à-dire proposer des amphis de restructuration, de correction de TP ou de questions-réponses par rapport à des questions qui auraient été posées sur des forums, par exemple. Ou alors, on peut tout à fait alterner entre de la plénière ou de la distance synchrone par groupe. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aviez à la base, dans vos séances en présentiel, une séance de 1h30 par exemple avec tous vos élèves, bah peut-être que vous allez plus faire 1h30, mais peut-être que vous allez scinder ce créneau d'1h30 en créneau de 20 minutes où vous allez faire du tutorat ou des points d'étape ou de la soutenance. Voilà, alors évidemment ce que je dis là c'est juste À titre d'exemple, hein, ça c'est vraiment pour expliciter en fait jusqu'où on peut aller. Mais après, c'est vous qui tenez compte un peu de des contraintes que vous avez. Vous faites avec les contraintes des emplois du temps, de l'organisation de l'institution, etc.
C'est moi qui ai cliqué au mauvais endroit. Alors, du coup, on avait préparé une sorte de un peu de typologie des différentes activités pour vous donner des idées. C'est une partie voilà, qui est un petit peu, enfin, je pense qu'il peut facilement se voir après par la suite. Le support, je pense, est assez complet là-dessus. Dans les grandes lignes, on va se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire en distance synchrone ? Et en fait, ce qui est probablement important, c'est le côté synchrone. C'est-à-dire que là où on va s'intéresser aux activités en distance synchrone, c'est qu'on a besoin d'interaction. Donc, on peut bien sûr faire des présentations magistrales, mais ce n'est pas forcément là où on aura le plus de plus-value. Et en tout cas, il faut avoir faire attention effectivement à limiter la longueur, parce que sinon, ça devient effectivement très, très difficile à gérer et à suivre. Et ça suppose un minimum d'animation. Par contre, là où on va effectivement avoir un intérêt vraiment fort du côté synchrone, c'est par exemple sur des points d'étape, des échanges effectivement avec des petits groupes d'étudiants sur des projets, sur des exposés par rapport à des soutenances, ce qu'on appelle les office hours. Je n'ai pas retrouvé de nom en français, pourtant les Québécois doivent avoir un terme pour ça. C'est-à-dire une heure où vous êtes disponible dans votre bureau pour accueillir les étudiants et répondre à leurs questions. Donc, on en fera un petit en début d'après-midi. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir effectivement des échanges en même temps. Même chose pour un certain nombre d'activités de type brainstorming. Le brainstorming, si vous l'étalez dans le temps, en fait, ça ne marche pas. Donc il faut à un moment donné être effectivement en synchrone. Je vous laisserai regarder les slides et en plus vous aurez les commentaires avec.
Alors oui, je juste préciser parce que je vois aussi ce qu'il y a dans le chat.
Le chat.
On va un peu vite, c'est vrai. Après, on a fait en sorte que le support soit en quelque sorte un peu autosuffisant. Donc, en fait, on va être plutôt sur aujourd'hui. On va commenter les slides, mais en fait, vous avez le temps de les revisionner calmement par la suite et de reposer les questions.
C'est l'objet en particulier de la deuxième partie en individuel. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, au contraire, pour qu'on explicite certaines choses, mais effectivement plutôt sur un mode écrit. Sur l'animation des séances à distance en synchrone, il y a pas mal de recommandations, on en trouve du coup maintenant beaucoup parce qu'on a quelques mois d'expérience maintenant. Il y a des aspects voilà, forts effectivement sur la technique, d'anticipation sur la technique qu'il faut prendre en compte parce que c'est quelque chose qui est compliqué, qui dégrade du coup pas mal la relation. Je pense que vous en avez fait l'expérience du coup ce matin voilà, pour trouver le bon lien, etc. Plus vous avez un système homogène, après plus c'est facile. C'est-à-dire vos étudiants, une fois qu'ils savent où est la plateforme, ils savent où ils doivent aller, c'est quelque chose qui se rôde. Tout ce qui est effectivement du coup séquencement, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit très explicite effectivement les différentes parties pour pouvoir anticiper un petit à petit les différents temps en fait, de votre séance. Il faut décider de règles de parole. Donc ça dépend de la taille du groupe, mais c'est important effectivement qu'on sache voilà, quand est-ce qu'on peut prendre la parole ou pas pour éviter effectivement de se retrouver dans une situation où on est entre guillemets un peu débordé par ce genre de choses. Et puis on en a parlé un petit peu, c'est important aussi voilà, de varier les activités, de ne pas rester sur un mode le plus linéaire possible. Plus on va varier, plus on va avoir quelque chose, une réaction active en fait de l'autre côté, et plus ce sera efficace. Je passe vraiment très vite, hein, mais vraiment n'hésitez pas après sur le forum pour qu'on en discute ou qu'on en rediscute après pendant les questions. Il y a la question des supports, donc toujours en asynchrone, tout ce qu'on peut donner comme support pour soutenir l'apprentissage. Donc il y a plein de formats différents qui sont plus ou moins difficiles, qui demandent plus ou moins de travail pour les remettre, pour les adapter. Peut-être on pourra faire un fil spécifique un peu sur les conseils pour adapter vos supports. À moindre coût. Ensuite, il y a énormément d'activités qui sont des activités en fait, où on va mettre l'étudiant en activité. Donc, je vais passer très vite. Donc, il y a tout ce qui va être support, enfin, les QCM, les tests, Ça peut être aussi du coup des outils en fait qui permettent de faire des calculs derrière, donc d'avoir des exercices en fait qui changent de façon régulière, pas juste un exercice qui se répète, mais du coup de s'exercer sur des valeurs différentes, des contextes différents. On peut aller encore plus loin après maintenant avec les notebooks où on va intégrer finalement de la programmation à l'intérieur d'une page web. Donc là-dessus, comme l'étudiant va pouvoir le modifier, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à ce qu'on revienne dessus, hein, parce que je vais plus que vite. Hein. Il y a tout ce qui va être production par les étudiants. Donc ça peut être de la production vidéo, ça peut être aussi des cartes conceptuelles. Donc il y a beaucoup de choses maintenant en fait, qu'on peut proposer aux étudiants, où du coup, c'est eux qui vont produire une partie du contenu, faire une analyse. Et donc du coup, ça c'est très riche, parce que ça les met vraiment dans une position... d'activité.
Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est très intéressant, en fait, de faire reformuler les étudiants d'une modalité à une autre. C'est-à-dire, par exemple, si le cours est à l'écrit, de le faire sous forme de carte conceptuelle ou de le faire sous forme de vidéo. Faut pas non plus que le fait de leur faire produire des supports multimédia, ça entraîne une charge cognitive supplémentaire pour eux. Donc, faut s'assurer que ça reste quand même relativement suffisamment simple pour ne pas alourdir en fait la tâche pédagogique. Voilà.
Voilà, dans notre type d'activité, c'est effectivement tout ce qui va être un peu sous la forme d'une étude de cas. Donc ça peut être soit sous la forme effectivement d'un module e-learning, mais ça peut être aussi du coup les serious games, voilà, qui vont apporter d'autres aspects. En particulier de branchement aléatoire, c'est qu'il y a souvent une partie un peu aléatoire dans les serious games, et l'utilisation des simulateurs qui peuvent se développer où du coup on peut vraiment tester des cas réels et se mettre dans des conditions qui ressemblent à la vraie vie.
Alors, s'agissant de l'idée finalement d'avoir une hybridation, on ne va pas vous redire ce que vous faites déjà en présentiel. Par contre, ce qui nous semblait intéressant, c'est de dire finalement comment on peut essayer de revisiter le présentiel au regard de la distance. Donc, l'idée pour l'étudiant, c'est là l'idée en fait qui est un peu présente dans la classe inversée, c'est-à-dire de profiter finalement du présentiel pour faire ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire avec l'interaction, c'est-à-dire de profiter de la dynamique de classe pour travailler vraiment les contenus plus activement et plus en profondeur. C'est-à-dire finalement, peut-être transposer une partie du cours qui est le contenu en distance et profiter de la présence pour proposer des activités qui permettent soit de restructurer en fait le cours vu à distance, c'est-à-dire de manipuler ou de reformuler les concepts sous des formes un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. Bon, ça peut être des choses très basiques, hein. Ça peut être de la question-réponse, ça peut être des quiz, ça peut être des cartes mentales. Donc, la liste, elle n'est pas exhaustive, ou c'est simplement ce que vous faites quand vous faites les TD, les exercices d'application. Si on monte d'un cran, ça peut être une façon aussi d'amener l'élève à problématiser, puisque il aura vu en fait, il aura vu déjà le contenu avant la séance, et donc on peut essayer de sonder un peu sa compréhension fine des notions apprises, ou on peut aussi chercher à sonder la transférabilité des connaissances, c'est-à-dire comment il passe d'une situation qui a été étudiée en cours à une situation qui est un petit peu différente au travers des études de cas ou des débats. Et il y a aussi la possibilité dans un cran, je dirais, plus élevé, d'essayer de proposer des activités qui font appel un peu à la créativité des élèves par rapport à des problèmes ou des cas inédits qui n'ont pas été abordés en cours par rapport à des méthodes comme le projet ou le brainstorming. Donc, tout ça, évidemment, c'est des choses que vous faites déjà, mais c'est plutôt le pas de côté qu'on va faire dans la réflexion de la scénarisation pédagogique qui est intéressante. Du point de vue de l'enseignant, on peut essayer de justement utiliser le présentiel pour proposer des activités plus, je dirais, qui engagent plus activement les élèves dans la classe. Et le corollaire de ça, c'est que l'enseignant, il se met en retrait. Et se mettre en retrait, ce n'est pas forcément ne rien faire. Se mettre en retrait, ça peut être aussi l'occasion de prendre le temps d'observer les élèves en activité. Ça peut être l'occasion d'essayer de différencier un petit peu son enseignement. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire observer les élèves en activité et essayer de recueillir des données utiles à la remédiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passer dans les groupes, essayer de voir les difficultés qu'ils ont réellement, les réactions qu'ils ont par rapport aux exercices et le temps de résolution des exercices qu'ils ont aussi. Ça peut être, du coup, une fois qu'on a pris ce temps-là de l'observation, prendre différentes mesures. Ça peut être donner des feedbacks personnalisés aux étudiants, c'est-à-dire on passe dans les groupes, on fait des commentaires sur les exercices ou on donne des conseils sur la façon de résoudre les exercices à l'oral et individuellement par rapport à chaque groupe. Ça peut être le fait d'adapter le cours en fonction du niveau ou du rythme des élèves. Par exemple, si dans une séance, on s'aperçoit que on avait un petit peu, surestimé le niveau des élèves par rapport aux exercices, si on prend le temps de l'observer dans une séance, on peut revenir sur l'autre séance en présentiel et peut-être proposer des exercices par niveau. On peut aussi profiter en fait d'un autre climat de classe pour aborder des dimensions du travail qu'on n'aborde pas forcément suffisamment, c'est-à-dire dans des contextes où on est toujours obsédé par le fait de pas être en retard sur notre programme, c'est-à-dire finalement prendre le temps aussi de parler aux élèves du climat de classe, de l'efficacité du travail de groupe ou de leur méthode de travail. Ce qui peut aussi prendre un peu de temps, c'est aussi gagner du temps, faire gagner du temps aux élèves sur l'efficacité de leur apprentissage. Alors, on va aborder un aspect qui est central, c'est l'aspect du support d'enseignement. Pourquoi je parle de support d'enseignement? Parce qu'en fait, on va commencer par refaire le WooClap et ensuite on va faire un petit distinguo intéressant.
Donc, quel est le type de support vers lequel vous iriez pour assurer votre enseignement à distance? Comme j'ai suivi un petit peu d'un œil le chat, je vois qu'il y avait déjà des choses, des idées en tout cas. Alors, 72, un peu plus de 72 avoir répondu. Je commençais à afficher les résultats. Alors, donc déjà, il y a un constat fort, c'est que vous pensez que vos supports actuels ne sont pas adaptés. Et donc, ça suppose en fait, du coup, deux stratégies pas beaucoup de choses près, se partagent. C'est soit effectivement adapter des supports existants, soit effectivement faire des nouveaux supports. Le deuxième étant probablement un petit peu moins consommateur de temps, quoique. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ces sujets-là qu'on va aborder dans cette partie. Merci pour vos réponses. Je te laisse reprendre la main, Gilles.
Oui. Alors, il y a sur la question du support d'enseignement, en fait, il y a une distinction qui est vraiment très importante. C'est celle de faire la distinction pour l'enseignant entre ce qui est le support de cours et le support d'apprentissage. Le support de cours, c'est ce qui va aider en fait l'enseignant à matérialiser en fait sa pensée quand il va transmettre le cours en synchrone. Donc, on a évidemment le PowerPoint, mais ce à quoi on pense moins, c'est que le tableau est aussi un support de cours. Le PowerPoint, il pose d'emblée le contenu, et le tableau, en fait, c'est la matérialisation presque en temps réel du raisonnement déployé par l'enseignant. Donc, le support de cours, en fait, il est vraiment fait pour le présentiel, il est fait pour la classe virtuelle, et il va jouer le rôle de complément au discours de l'enseignant. Il va jouer le rôle de complément pour l'étudiant en termes de support de révision. Et c'est quelque chose, en fait, qui ne va pas être vraiment un support d'apprentissage à part entière. C'est quelque chose qui va être lacunaire, et donc c'est quelque chose qui va venir en complément. À l'opposé de ça, on a les supports d'apprentissage. Alors, les supports d'apprentissage, c'est quoi ? Ça va être les polycopiés, ça va être les notes rédigées de l'enseignant, et ça va être, par exemple, des vidéos. Alors, dans un cours présentiel normal, l'enseignant va d'abord accentuer son cours sur le support de cours, avec le risque que si l'étudiant n'a pas pris ses notes de manière suffisamment efficace, il y a des choses qui peuvent manquer. Et souvent, on va avoir effectivement en complément des supports d'apprentissage. Mais là où ça va changer par rapport à la distance, c'est que l'importance, en fait, des deux types de supports, elle va en quelque sorte s'inverser. Ça veut dire que ce qui va devenir central dans la distance, c'est le support d'apprentissage et plus forcément le support de cours. Et donc, c'est pour ça que vous avez aussi l'impression que vos supports ne sont pas adaptés forcément à ces nouvelles modalités. Donc, le support de cours, c'est quoi ? Ben, c'est un support qui va essayer de prendre en compte toutes les dimensions de l'apprentissage pour guider l'élève dans son autonomie. Donc, ça veut dire effectivement plus d'exhaustivité sur le contenu du programme, mais ça veut dire aussi peut-être mettre la structure de ce qui est essentiel et de ce qui est à creuser en avant. Et la caractéristique du support d'apprentissage, c'est que ça va être autoportant, c'est-à-dire que ça va en quelque sorte suffire à l'élève pour qu'il puisse en tout cas retenir l'essentiel du cours. Alors, sur la question spécifique du support de cours, une demande récurrente de la part des enseignants, c'est le fait de reproduire le tableau à distance. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible techniquement, et on a eu différentes choses qui ont été proposées par les enseignants qui ont été confrontés du coup à la question de la classe virtuelle. Alors, d'abord, quand vous faites une classe virtuelle, vous avez la possibilité de filmer un tableau avec une caméra. Donc, ça suppose que la caméra, vous l'avez, ça suppose aussi que vous ayez un tableau à disposition. Évidemment, tout ce que je dis, c'est soumis à la condition que vous ayez le matériel adéquat. Et pour ce qui est de la webcam, il faut que la webcam puisse être suffisamment, avoir une résolution suffisamment élevée pour qu'on voit en fait à l'écran ce que vous essayez de marquer au tableau. Un deuxième type de périphérique que vous pouvez utiliser, qui est moins connu, c'est le visualisateur de documents. Alors, vous en avez un peu de toutes les tailles. Vous avez des choses qui sont assez portables, des choses qui sont un peu plus usines à gaz. L'idée, c'est que vous avez, comme vous avez sur l'image, un périphérique. En fait, vous avez une caméra. Vous mettez votre feuille blanche dessus, et puis vous pouvez écrire, et en fait la caméra, elle va être pointée sur la feuille blanche. Troisième type de périphérique qui a été utilisé, c'est qu'un certain nombre d'enseignants, en fait, ont acquis un matériel qui d'habitude est utilisé par les graphistes. Alors, c'est les tablettes graphiques. C'est-à-dire que vous allez avoir dans Zoom ou dans d'autres logiciels de classe virtuelle des tableaux blancs virtuels, mais que vous n'allez pas pouvoir être en mesure de les utiliser correctement parce que vous avez une souris. Donc, si la souris, elle n'est pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour l'écriture manuscrite. Alors, à ce moment-là, une alternative, ça peut être d'investir dans des tablettes graphiques. Alors, il en existe différents types. Il existe des tablettes graphiques donc sans écran, où l'écriture est déportée, et dans ce cas-là, ça va C'est un budget d'environ une centaine d'euros pour les plus petites tablettes graphiques, à des véritables tablettes graphiques avec écran intégré, où là, ça peut aller à plusieurs centaines d'euros. Mais disons que ça peut être un compromis si vous voulez vraiment comment dire, utiliser un tableau blanc virtuel et que votre établissement ne vous équipe pas avec ses, avec ses périphériques. Alors, s'agissant des supports d'apprentissage maintenant, il y en a que vous connaissez et puis il y en a peut-être que vous ne connaissez pas. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'on a les supports d'apprentissage, en fait, je dirais classiques, qui sont les supports écrits comme le polycopier, les livres, les notes de cours, les supports visuels comme le PowerPoint. Et puis, la grande nouveauté, finalement, ces dernières années, on disait que l'enseignement à distance évolue avec la technique. Et avec la technique, on a de plus en plus la possibilité de créer des supports multimédia et des supports audiovisuels. Et les supports audiovisuels, ça ne nécessite pas toujours forcément une équipe avec un matériel de pointe. Entre, par exemple, le cours filmé où vous allez avoir des caméras qui sont dans la salle et où vous déroulerez votre cours normalement et où finalement tout va être pris en charge par l'équipe audiovisuelle, vous pouvez aussi avoir créé des supports audiovisuels par vous-même. Donc, un premier stade, ça va être la possibilité de donner la possibilité aux élèves d'avoir une diapositive à noter. C'est-à-dire que transformer finalement le PPT qui est un support de cours en support d'apprentissage si vous rajoutez des notes. Ces notes-là, vous pouvez aussi les enregistrer par audio. Et ça, c'est la façon peut-être la plus facile de créer un support audiovisuel. C'est-à-dire que vous avez d'un côté toutes vos slides et puis vous pouvez enregistrer vos commentaires dans PowerPoint. Maintenant, c'est une fonctionnalité de base. Vous pouvez enregistrer des commentaires directement intégrés dans vos slides. Si on augmente d'un cran, l'autre possibilité que vous avez, c'est de faire des enregistrements d'écran. C'est notamment utile si vous faites des tutoriels sur des logiciels. Alors ça, je crois que dans les dernières versions de PowerPoint, vous avez la possibilité de le faire nativement aussi. Je listerai les outils dans les slides suivantes. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'enregistrer votre écran d'ordinateur en faisant défiler vos slides ou même en intégrant parfois votre webcam. La façon la plus facile, par exemple, avec les logiciels de classe virtuelle, c'est que vous lanciez une conférence, par exemple, comme si vous lanciez votre classe virtuelle et que vous vous enregistriez en partageant votre écran. Ensuite, on va vers des supports qui sont plus développés, comme la capsule vidéo. Donc là, on est sur des problématiques où vous utilisez des logiciels de montage, ce qui est un peu plus complexe et qui prend un peu plus de temps techniquement. Alors, ça, je vous laisserai peut-être le consulter parce que c'est un peu plus complexe. Mais en fait, l'idée, c'est de voir en fait objectivement quelles sont les propriétés cognitives des différents supports d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des supports qui vont être statiques, comme des supports écrits, comme le polycopier, comme les diapositives, et des supports qui sont dynamiques, comme par exemple les vidéos. Et en quoi, finalement, ces différents types de supports participent d'une manière ou d'une autre à aider l'étudiant à structurer ses idées et à consolider sa compréhension. Voilà, donc ça fait partie des choses, des parties que vous pouvez consulter après la présentation. Ce qui est important, c'est surtout ça, c'est l'idée de comment on peut optimiser en fait ces supports pour la distance. Alors la première chose, c'est que vous devez vous concentrer sur le fait d'expliciter en fait votre démarche d'enseignement aux élèves. Et vous devez essayer aussi de rendre vos différents supports le plus lisible possible du point de vue de la structure. Ça peut passer par des choses très basiques comme la table des matières. Ça peut passer par des choses comme des résumés, des fiches de synthèse, des encadrés, choses que vous faites peut-être déjà. Ça peut passer aussi par des logigrammes ou des en fait, des façons en fait, de reformuler ce que vous avez vu en cours, mais de différentes façons. Par exemple, si vous faites vous avez par exemple un chapitre de polycopier qui est assez exhaustif et qui est peut-être compliqué à comprendre d'un point de vue abstrait, ben, peut-être que vous pouvez, à côté, proposer aux élèves une vision plus simple avec les différents concepts. Autre chose importante, c'est le fait de dimensionner le support en tenant compte de la charge de travail des élèves. Alors, une leçon que nous a appris les MOOC, c'est que vous pouvez influer par rapport au travail asynchrone, vous pouvez vraiment décider de dire j'essaye en fait de donner un certain nombre d'heures de travail personnel à l'élève. Par exemple, dans les MOOC aujourd'hui, on sait que si on fait des chapitres où on a des vidéos à consulter, vidéos ou polycopiées d'ailleurs, avec des QCM à côté, il faut essayer de répartir la charge de travail en fait, d'une semaine à l'autre. Donc dire la somme de ce que je donne à l'élève, ça ne va pas représenter plus de 2 heures par exemple de travail. Et dans ces 2 heures, il y a peut-être 1 heure de consultation de vidéos. Hein, tout ce que je dis, c'est des exemples. Et 1 heure de, alors 15 minutes de QCM et peut-être, je ne sais pas moi, une demi-heure ou 3/4 d'heure de résolution d'exercice. Donc c'est vraiment la question de dimensionner et de rythmer la charge de travail de l'élève. Ce qui est important aussi, c'est de fractionner les supports que vous leur présentez. C'est-à-dire que plutôt que de leur donner un support unique, c'est-à-dire un polycopié, avec tous les chapitres, vous pouvez faire quelque chose qui est d'organiser finalement votre espace de cours Moodle, par exemple, en semaine, et dire, sur cette semaine-là, vous allez étudier tel chapitre, répondre à telle question, et donc ça va tout de suite aider les élèves à mieux s'organiser. Pareil, si vous faites des vidéos, il vaut mieux faire des vidéos, plusieurs vidéos courtes plutôt qu'une grande vidéo longue. Et même pour vous, quand vous tournez une vidéo, en fait, ce qui est difficile, c'est que vous allez vous y reprendre à plusieurs fois parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous faites des vidéos. Et donc, c'est plus facile de faire plutôt plusieurs vidéos courtes, en général entre 7 minutes et 1/4 d'heure, plutôt qu'une vidéo longue où vous allez expliquer votre cours in extenso pendant une heure ou une heure et demie. Alors, un autre enseignement aussi par rapport à la classe inversée, c'est que quand vous dites aux élèves vous devez consulter des supports juste avant le présentiel qui suit, pensez bien à avoir une durée raisonnable par rapport au travail que vous leur demandez. Ne leur demandez pas de lire un polycopié de 300 pages pour préparer la séance qui suit parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas y arriver. Donc, d'habitude, si vous leur proposez une version un peu condensée du polycopier qui tourne autour de 1 heure ou une heure et demie maximum pour qu'ils puissent vraiment avoir une vision, je dirais, substantielle du contenu, c'est pas mal. Et après, l'autre idée qui est intéressante pour optimiser ces supports pour la distance, c'est l'idée d'associer les supports. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire du tout polycopier ou du tout vidéo. Vous pouvez alterner les deux. Par exemple, les vidéos, c'est bien pour visualiser les points essentiels ou pour faciliter la compréhension sur des points dynamiques ou sur des points complexes. Par exemple, sur des démonstrations mathématiques ou sur des questions de géométrie dans l'espace si vous avez besoin que les élèves voient un élément dynamique. À l'inverse, l'écrit, c'est bien pour pouvoir poser les choses, exposer l'ensemble de la théorie et l'élève va pouvoir revenir et creuser, finalement, approfondir grâce au polycopier.
Alors, on va attaquer du coup la dernière partie. Voilà, on va essayer d'aller vite parce que je pense qu'on a tous très envie de passer aux questions. Mais du coup, c'est quand même une question importante qu'effectivement l'accompagnement des étudiants. Alors, on va, comme d'habitude, faire un petit passage par WooClap. Donc, Pour vous situer un petit peu, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous souhaitez en fait développer l'accompagnement en fait des étudiants à distance. Donc, c'est quelque chose d'assez important. quels sont les aspects voilà, que vous allez privilégier. Alors, complètement idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse en fait, ces tests en fait, avant la présentation de la partie, et puis après, pour voir si vous évoluez. Mais après, voilà, c'est toujours une question de courir après le temps. On commence à faire afficher les résultats. Donc il y a un aspect voilà, qui se dégage assez fortement, qui est effectivement l'explicitation effectivement, des différentes activités. Ça, c'est un peu intéressant, on va en parler. Ensuite, les autres se répartissent après de façon plus homogène, effectivement, sur la différenciation des ressources. Voilà, sur le tutorat, vraiment au sens guide, et éventuellement sur le suivi de l'activité des élèves. Alors, Gilles, est-ce que tu peux me repartager la presse, s'il te plaît? Il doit nous rester... Les 5 slides que je vais passer rapidement. Sans bâcler non plus. Hein, mais...
Voilà.
Ça, c'est bon. Alors, le premier élément, en fait, de... d'accompagnement en fait, des étudiants, bah, en fait, vous en avez parlé, c'est un petit peu effectivement la communication qu'on va avoir vis-à-vis des étudiants et l'explicitation. Alors souvent, ça passe effectivement par le syllabus. Donc le syllabus, il y a souvent, alors ça dépend s'il est structuré ou pas dans votre établissement, mais on retrouve souvent différentes parties voilà, qui sont les objectifs de l'enseignement, au sens objectif pédagogique, le déroulé des activités, le programme. Ce qui est vraiment important, effectivement, quand on commence à faire des choses en hybride comme ça, c'est vraiment de formaliser le déroulement. C'est de savoir qu'est-ce qui va se passer en synchrone, qu'est-ce qui va se passer en asynchrone, d'être vraiment le plus explicite possible. Et ça, c'est un des retours des enquêtes auprès des étudiants, c'est que le fait que ce soit explicité, que ce soit clair, ça aide beaucoup, en fait, ça soulage beaucoup, finalement, les étudiants qui savent où ils vont, comment ça va se passer. Ils ont beaucoup moins d'inquiétude et de stress. Donc ça, vraiment, c'est finalement quelque chose d'assez simple. C'est vraiment juste d'expliciter l'organisation qu'on met en place, éventuellement le pourquoi. Je vous laisserai relire les exemples en détail. De la même façon, c'est important de se projeter sur un calendrier. Donc le calendrier, c'est effectivement, donc si vous êtes vraiment du coup avec les deux modalités présentiel distance, un calendrier qui va reprendre les séances en présentiel, les dates. Donc ça, souvent, c'est l'emploi du temps en standard. Mais c'est important aussi d'avoir le pendant pour la distance. Alors souvent, ça se traduit, alors soit effectivement si c'est du synchrone, finalement comme une partie de l'emploi du temps, mais si ce n'est pas du synchrone, ça veut dire que c'est des échéances. Et ça, c'est important que les étudiants ils puissent se projeter sur ces échéances et savoir exactement qu'est-ce qu'ils devront rendre, quel type de travail ils auront à faire pour telle ou telle date. C'est d'autant plus important que ça peut être aussi un outil, je dirais, interne à l'établissement pour éviter les collisions. On a eu beaucoup de retours sur la fin d'année parce que les enseignants effectivement avaient peu de moyens en fait de partager les informations sur qu'est-ce qu'ils demandaient comme rapport, qu'est-ce qu'ils demandaient éventuellement comme examen, quel est le travail qui était attendu des étudiants, et du coup des périodes en fait où il y avait trop de choses à faire en même temps, trop de documents à rendre. Donc le fait de pouvoir l'expliciter et de le partager, ça permet effectivement éventuellement de lisser un peu la courbe et de se dire non, là effectivement cette semaine-là c'est pas possible, ils auront déjà trois devoirs à rendre, donc il va falloir étaler un petit peu l'organisation. Et ça suppose d'avoir effectivement des documents pour partager cette information-là. L'autre aspect important, c'est effectivement d'expliciter comment vous allez interagir avec vos étudiants. Donc, quand vous êtes effectivement en présence, c'est assez naturel. À distance, ça suppose effectivement de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, de dire qui est responsable, qui est la personne référente. de donner voilà, son adresse mail. Voilà, si vous avez des questions, vous vous adressez voilà, à telle personne. Donc souvent, chez nous, c'est ce qu'on appelle les enseignants de petite classe. Mais c'est bien que, voilà, qu'il y ait un endroit, à un moment donné, où on le rappelle, où on peut s'y référer. Et puis aussi, les conditions dans lesquelles on va faire ces échanges-là. Est-ce qu'on va le faire par le mail? Est-ce qu'on va le faire par le forum? Est-ce qu'on va utiliser d'autres outils? Et les conditions en fait, dans lesquelles on va le faire. Typiquement, sur le mail, s'engager entre guillemets sur un délai de réponse raisonnable. On sait que le mail, on ne va pas répondre dans le quart d'heure, ce n'est pas la peine de s'exciter. Donc voilà, on va le répondre. Je pourrais vous mettre sur Moodle un syllabus en fait, d'une formation que j'ai suivie là, pendant le confinement, voilà, que je trouve vraiment très très bien et qui rappelle effectivement voilà, à quoi il s'engage en termes de communication. Donc ça peut être le forum, ça peut être le mail, ça peut être des créneaux en fait, qui sont bloqués où les étudiants peuvent rejoindre une classe virtuelle par exemple de type office hour. Et puis aussi c'est important de donner un certain nombre d'infos sur l'organisation du travail, en particulier sur la quantité de travail attendu. Parce que vous pouvez avoir les deux extrêmes en fait, un étudiant qui va effectivement devoir travailler une matière de façon relativement autonome, ben, soit il va la survoler et il ne va pas s'apercevoir qu'en fait il ne creuse pas suffisamment, ou au contraire il va le creuser beaucoup plus en fait que ce que vous attendiez et y passer beaucoup plus de temps que entre guillemets ce qui est attendu. Alors souvent au détriment d'autres choses. Alors, si c'est pour son plaisir et que c'est pas au détriment d'autres enseignements, pourquoi pas. Mais du coup c'est intéressant d'avoir cette information effectivement sur le travail effectivement attendu. Et ça demande par contre vraiment toujours d'expliciter très très fortement. Voilà. Sur la posture du tuteur à distance, peut-être ce qui change assez fortement, c'est d'abord le côté proactif. J'ai eu des échanges avec des enseignants qui se plaignaient un petit peu effectivement de la passivité des étudiants à distance ou de la difficulté entre guillemets de savoir ce qu'ils étaient actifs ou pas. Il est très clair que ça demande vraiment d'être proactif. Il faut aller chercher l'information en leur posant la question, en les interrogeant, en les faisant réagir, peut-être en allant chercher des traces sur la plateforme pour savoir effectivement est-ce qu'ils sont connectés, est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils ont fait l'exercice demandé. Mais c'est pas spontané. Il faut vraiment être proactif et il faut utiliser tous les canaux possibles pour pouvoir effectivement aller chercher cette information là. Il y a la structure qui est aussi un point important. Alors la notion de groupe en fait peut être vraiment un bon levier parce que du coup ça permet voilà d'avoir des échanges, de s'organiser collaborativement, de pas être isolé en fait dans ses choix d'apprentissage. Donc ça peut être un aspect. Et le deuxième aspect, c'est vraiment le feedback. Quand vous êtes en présentiel, il y a un feedback assez naturel en fait qui se passe pour savoir dans les deux sens. Vous savez ce que font à peu près les étudiants quand vous êtes en cours avec eux, au moins de façon globale et avec plein de signes en fait qui sont pas explicites, mais voilà les regards, ça peut être plein de choses différentes. Quand vous êtes en ligne, il va vraiment aller falloir les chercher parce que vous n'aurez pas ce côté-là. Donc, il faut aller faire des commentaires, il faut aller regarder les corrections. Et les étudiants, eux aussi, ont besoin de ce feedback. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir où ils en sont. Donc, d'avoir une évaluation, on est d'accord au sens vraiment personnel, hein, ce n'est pas du tout certificatif, mais de savoir où ils en sont dans leur travail, d'avoir des points d'étape, de structurer finalement leur apprentissage et d'être en mesure de se positionner. Et le dernier point qui peut aider en termes de tutorat à distance, c'est effectivement par rapport aux ressources, c'est de les différencier. Alors différencier d'abord en termes de niveau, donc d'avoir des niveaux qui soient explicites, c'est par exemple des exercices, que l'on sache si c'est des exercices plutôt basiques ou plutôt avancés pour aller plus loin. Ça permet finalement d'avoir un feedback immédiat pour l'étudiant. C'est-à-dire que s'il ne réussit pas un exercice que vous avez entre guillemets marqué comme basique, il sait qu'il a des choses à retravailler sans attendre éventuellement de vos commentaires. Donc c'est quasiment un feedback a priori. Et puis, même chose, les supports, il faut qu'ils soient adaptés en fonction de la population que vous avez. Peut-être si vous avez beaucoup d'étudiants étrangers, vous aurez besoin de documents en anglais, vous aurez peut-être besoin de sous-titres. Voilà, si vous êtes suffisamment avancé, peut-être que vous avez des questions d'accessibilité au sens handicap. Enfin, il peut y avoir plein de questions. Mais voilà, proposer effectivement des supports qui soient effectivement adaptés à vos étudiants.
Alors, je fais peut-être une petite parenthèse sur la question des sous-titres. Alors. ce qui est intéressant là sur la question des sous-titres, c'est que sur tous les outils en ligne, alors sur Office 365 par exemple, et ça j'ai remarqué ça il y a juste quelques jours, ils commencent à implémenter en fait avec l'intelligence artificielle, comme sur YouTube en fait, des sous-titres quasiment en live. C'est-à-dire que vous allez parler et ça va traduire instantanément ce que vous dites en sous-titres. Et ça, c'est intéressant, notamment pour des histoires d'accessibilité si vous avez des populations avec des handicaps.
Ça, je vais vous laisser le regarder sur les moyens de communication. Vous avez plein de moyens différents qui sont à votre disposition avec des avantages et des inconvénients.
Alors, peut-être quand même deux mots quand même sur les moyens de communication. Vous connaissez la plupart d'entre eux. La classe virtuelle, donc, qui s'est révélée être qui pendant le confinement donc a explosé en termes d'usage alors qu'elle n'était pas si courante avant. Je vais passer rapidement sur le mail, sur le forum. Et je vais m'intéresser peut-être à deux moyens qui sont moins exploités, qui sont le chat et l'espace collaboratif. Le chat, en fait, il faut bien voir que l'usage que les étudiants ont de la communication en ligne, elle est fondée sur un échange instantané. Donc, en fait, ils ont autant le forum permet de, je dirais, de structurer, de garder une trace en fait des échanges, donc utile pour certaines activités pédagogiques, autant quand les étudiants échangent entre eux, ils sont vraiment habitués à avoir ce fil de discussion où ils peuvent carrément, comme le chat ici, avoir un échange qui est plus spontané. Et là, la difficulté pour l'enseignant, c'est de dire quel outil de chat je peux utiliser. Et quand on a et en fait, la difficulté du chat, c'est que souvent, ça a un aspect informel. Donc, les étudiants, ils vont communiquer entre eux sur WhatsApp ou sur Messenger, et puis ils vont pas forcément intégrer l'enseignant dans ces outils-là. Alors, de ce point de vue-là, la nouveauté qui est intéressante, c'est justement les espaces collaboratifs. Peut-être que certains d'entre vous les ont utilisés, des outils comme Slack, Discord ou Teams qui proposent en fait des espaces intégrés où vous avez à la fois des chats, la possibilité de définir autant de canaux de discussion que vous voulez et la possibilité dans ces chats aussi de définir des classes virtuelles à la volée. Et donc, ça, c'est des nouveaux outils qu'il ne faut pas sous-estimer parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont en quelque sorte être des outils formels. Là où auparavant, des chats comme WhatsApp ou Messenger sont des outils qui sont informels.
Ok. Bon, on va pouvoir passer aux questions. Alors, on a nos gentils co-animateurs là, qui ont suivi un peu vos échanges sur le chat, qui nous ont fait un petit document que je suis en train d'essayer de consulter. Est-ce que toi, Gilles, tu l'as ou pas déjà ?
Non, je ne l'ai pas. Il est où ?
Alors.
Sinon, ils peuvent peut-être parler directement.
Oui, peut-être. Alors, du coup, c'était qui ? C'était Lionel.
Lionel et Saïda. Vous pouvez aussi.
Peut-être que vous pouvez nous faire un petit retour sur les questions et puis, du coup, on rebondirait directement dessus.
bon, je vais commencer
on te prend à chaud.
un petit peu, oui, à chaud. Alors, peut-être une première remarque générale, en fait, et je pense que c'est une bonne expérience pour nous tous, cette modalité, et ce qui est revenu aussi dans la discussion, c'est comment gérer au même temps un cours quand je suis un enseignant et au même temps un chat à côté. Bon, vous avez eu deux mains à côté et ce n'était pas si évident pour nous. de suivre tous les échanges. Et c'est vrai que c'est une difficulté, enfin moi, mes échanges avec certains enseignants, c'est une difficulté de, quand on utilise une classe virtuelle, de gérer le cours et aussi avoir un œil sur les échanges dans le chat, répondre aux questions. Donc, ça demande voilà, de fixer oui. déjà des règles à l'avance, de réguler, peut-être faire appel à un étudiant ou deux oui. qui tournent chaque séance pour dire, ben, voilà, vous faites une synthèse des questions, proposer à un moment donné 5 minutes, 10 minutes pour faire un point sur ce qui se passe dans le chat. Voilà ce que je
voulais dire. Je suis assez d'accord avec ta réponse. Enfin, nous, c'est l'expérience qu'on a eue, effectivement. Alors, nous, établissement, pendant le Covid, hein, pas effectivement l'atelier, mais c'est effectivement de s'appuyer, alors, soit sur un co-animateur, quand effectivement il y a deux enseignants dispo, parce que c'est des masters spécialisés et qu'ils peuvent le faire, soit effectivement s'appuyer sur des étudiants qui vont effectivement faire un peu ce travail de co-animation et de synthèse des questions. Et effectivement, prévoir des temps réguliers pour pouvoir effectivement régler les questions au fur et à mesure. Mais c'est une vraie difficulté. Hein. Et c'est probablement pour ça que le... Alors, j'entends les arguments, entre dit, où on a envie de faire un peu comme le présentiel, et, mais à distance. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'une présentation longue, là déjà, du coup, là, on a fait une heure. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça long. Je vous laisse vous faire votre jugement, mais c'est pour moi intéressant plutôt effectivement d'essayer de segmenter, de faire des apports qui ne soient pas forcément sous la forme d'une classe virtuelle, et vraiment de garder la classe virtuelle pour des échanges, pour des dynamiques, un petit peu ce qu'on est en train de faire là avec les questions-réponses.
Et alors, pour compléter… Et
en même temps, c'est difficile.
Pour compléter, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Si vous faites des classes virtuelles, essayez vraiment de penser en amont à ces temps de réponse, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas être deux personnes à la fois. Donc, vous essayez de dire, je vais par exemple présenter tel point en 15-20 minutes et je vais me réserver 5 minutes pour consulter le chat et répondre aux questions des élèves. Je pense que la principale différence, c'est ça, dans la gestion de la classe virtuelle, c'est vraiment de séquencer chaque temps. On parlait tout à l'heure d'une position de formateur et d'une position d'enseignant pour transmettre le contenu. Et donc, c'est vraiment alterner entre les deux. Et ça se pense en amont.
Ben, je rebondis, Gilles, sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y avait une question sur la différence entre enseigner et former.
Alors, enseigner, c'est l'enseignant qui fait sa construction didactique par rapport au savoir, c'est-à-dire finalement c'est l'enseignant qui fait cours, c'est l'enseignant qui fait sa présentation magistrale. Et former, ça va être de répondre aux questions des élèves, ça va être de prendre en considération en fait leur apprentissage et d'essayer d'y remanier par du feedback ou par des conseils.
Je rebondis également sur les séances en synchrone. Il y a une question sur la longueur optimale d'un cours magistral.
Alors, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une longueur optimale de cours magistral. Évidemment, il faut éviter les choses qui sont trop longues. Pour moi, c'est plus la question du séquençage, c'est-à-dire éviter des phases trop longues, genre faire une heure et demie in extenso, c'est compliqué pour les élèves de suivre. Surtout si derrière, ils ont une journée où ils enchaînent les classes virtuelles. Donc, c'est pour ça que nous, on a testé ce format avec vous aussi. C'est que c'est un des formats dans lesquels vous faites. Et à chaque fois qu'on fait des pauses ou clap, c'est aussi une façon de vous remobiliser pour que vous ne restiez pas passif pendant X minutes.
Alors, il y avait plusieurs questions aussi sur comment transposer cette difficulté de transposer les enseignements présentiels au distanciel, notamment sur l'apprentissage par problème fait en petits groupes, notamment sur les TP et comment suivre le travail des étudiants et être sûr qu'ils font le travail qu'on leur demande. Donc voilà, il y a cette question de... par rapport à des modalités en présentiel, comment je fais quand je passe, comment je fais cette transformation.
Alors là-dessus, on va pas avoir de réponse forcément miracle qui va répondre à tout. C'est vraiment, je dirais, la grosse difficulté en fait. C'est toutes les activités en fait où vous allez avoir une interactivité importante. Et dans ce cas-là, l'interactivité, vous allez être obligé de la séparer, on va dire, soit en plusieurs canaux, soit en plusieurs outils. Donc, quels sont les outils les plus adaptés, on va dire, pour compenser au mieux le manque d'interactivité en présentiel. Donc, bon, après, moi, je peux donner plusieurs exemples. Par exemple, pour une séance de TP. Alors, où on demande aux élèves de faire des exercices en temps réel. Nous on a des enseignants en mathématiques qui ont utilisé un outil qui s'appelle par exemple LaTeX-Base, en fait, qui propose un double écran où d'un côté on a la question de l'enseignant et de l'autre on a l'étudiant qui va pouvoir rentrer ces lignes de code dans la tech et donc dérouler un peu l'exercice. Donc ça ne va pas répondre évidemment à tous les besoins de TP. C'est juste un exemple parmi d'autres. Pour ce qui est des TP informatiques, on a parlé tout à l'heure des notebooks. Pour ce qui est des gestions de projet, donc je parlais des choses qui sont assez adaptées, c'est ben, les outils. J'ai vu qu'il y avait des questions sur Slack et ce type d'outils. C'est des outils qui sont assez difficiles à décrire en fait parce que c'est vraiment adapté à la gestion de projet en fait. C'est des outils qui sont à la base des outils professionnels pour la gestion de projet, des outils numériques. Et je vous laisserai, de toute façon on en parlera peut-être dans les ressources du site en ligne, mais je vous laisse vraiment découvrir ce type d'outils qui peuvent être une solution intéressante pour la gestion de projet parce qu'on a justement une pluralité de fonctionnalités qui vont faciliter en fait l'échange.
Alors, je voulais juste compléter par rapport à ça. Je pense que de façon générale, l'enseignement à distance, quel que soit le format, ça demande en fait une organisation, on va dire une scénarisation plus rigoureuse. Et moi, certains enseignants m'ont dit que en fait, ça les a poussés, mais dans le bon sens, à restructurer le cours, que le cours soit plus structuré. Et tout ce qui est travail en groupe, apprentissage par problème, peut-être aussi sur la partie travail en groupe, c'est ce qu'on appelle le contrat pédagogique, les règles de fonctionnement. C'est quelque chose sur laquelle peut-être il faut insister, prendre du temps, surtout au début, peut-être, enfin, c'est des choses qu'on fait aussi en présentiel, hein. La première séance où on va fixer toutes ces règles-là, être sûr que les étudiants, on va dire, l'ont bien comprise et surtout s'assurer de l'établissement de ce contrat entre l'enseignant et les étudiants. Alors, sur les...
Il y a aussi des questions et des remarques autour de la réalisation des contenus, les PowerPoint commentés, les contenus vidéo, et quelles solutions techniques sur ces réalisations.
Je peux poser une question
sur le chat. Juste au niveau des outils, c'est vrai que c'est un parti pris un peu de l'atelier de... Pardon, je parle dans tout ça, c'est bon. De ne pas rentrer trop dans les outils parce qu'en fait, ça va dépendre des outils qui sont mis à disposition par les établissements. Alors, on n'est pas limité strictement par les outils de l'établissement. Il y a effectivement des études sur ce qu'on appelle l'environnement en fait, de travail de l'étudiant, mais que lui, en fait, se crée. C'est-à-dire que lui, il va, en fait, vous avez beau mettre des documents en ligne pour vos étudiants, en réalité, eux ont aussi leur environnement où ils vont aller chercher des choses sur YouTube, ils vont aller chercher un MOOC, ils vont aller chercher des documents ailleurs. Donc, en fait, il y a tout un écosystème finalement qu'on ne maîtrise pas complètement. L'avantage des outils institutionnels, quand ils sont partagés, c'est que c'est plus facile en fait à gérer. C'est que les étudiants savent les utiliser, ils savent où les retrouver. Donc, il y a une espèce de culture qui se fait, qui simplifie un petit peu le travail. Mais c'est sûr, du coup, ça dépend effectivement dans chaque établissement, qu'est-ce qui est disponible et puis éventuellement des outils que vous souhaitez aller chercher par ailleurs. Ce que j'ai proposé tout à l'heure dans le chat, c'est, enfin, ça typiquement, je pense que c'est une discussion qu'on peut facilement avoir dans le forum et continuer. Voilà, à proposer effectivement différents outils, des liens éventuellement vers des tutos. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui se prête assez bien. Voilà, une discussion sur une durée voilà, un peu plus longue, des échanges, des mises à jour. Voilà, si ça vous frustre pas trop de ne pas avoir une réponse plus précise sur tous les outils possibles.
Alors, il y avait une question, je dirais, je mettrais dedans plein de choses, mais c'est lié au temps. J'ai pas le temps de revoir mes supports de cours, le temps aussi de la séance en ligne, déjà en présentiel les séances ne suffisent pas, à distance je risque encore de perdre encore plus de temps, ça peut être lié à des problématiques techniques et voilà c'est alors est-ce que c'est une question de revoir aussi ses objectifs d'apprentissage, ses objectifs pédagogiques, faire peut-être le deuil de certaines choses. Je vous laisse.
Ouais. Moi, j'avais noté, alors je ne sais plus quelle question exactement dans le chat, mais qui me faisait effectivement penser un peu à ça. Il y a vraiment une question de choix en fait à faire. Il y a un choix sur ce qu'on est capable de faire ou pas et du temps qu'on est prêt à y consacrer. Voilà, pour avoir été enseignant-chercheur, j'entends très bien la contrainte temps et la complexité de sa gestion. Mais c'est vraiment des choix. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a essayé de présenter, je pense, dans l'atelier, c'est voilà, ce que nous dit effectivement l'expérience depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, sur la formation en ligne, les points d'attention. Après, ça veut dire que ce qui est difficile, c'est de s'adapter, parce que ça demande effectivement éventuellement beaucoup de changements. Il faut probablement le faire de façon graduelle, et puis accepter de faire des choses peut-être moins bien, qui marchent moins bien. Ce qui me paraît intéressant, moi, c'est d'en avoir conscience, d'être vraiment effectivement dans une démarche un peu itérative. Il y a, je ne retrouve pas son nom, mais Berthiaume, Denis Berthiaume, qui avait fait une conférence là pendant le confinement qui était intéressante. Donc lui, il a longtemps été responsable de la cellule d'appui en fait à l'Université de Lausanne. Et en fait, ce qu'il disait, c'est en fait, un enseignement, quand il change de forme, hein, que ce soit voilà, contraint par le Covid ou pas, il faut plusieurs itérations pour qu'il converge vers une solution qui soit satisfaisante. Typiquement, il faut 3-4 itérations pour que ça converge. Donc là, malheureusement, on n'a pas eu ces itérations-là, mais je pense qu'il faut, voilà, faut l'accepter. Ça veut dire qu'il faut effectivement faire des choix, peut-être couvrir moins de matière, mais peut-être mieux. Ou finalement accepter que les étudiants ils soient peut-être un peu moins bons à la fin de l'enseignement que ce qu'on aurait pu espérer. C'est des compromis et des choix à faire.
Et je rebondis sur ça parce qu'il y avait aussi une question sur l'évaluation, dire on n'aura pas le temps de faire de l'évaluation pendant les séances, pendant le cours. Alors, après, c'est un avis, hein, dire est-ce que c'est mieux quand même de prendre un temps qui n'est pas forcément court, hein, parce qu'on peut lancer un sondage rapide pour vérifier que les étudiants ont bien compris qu'ils suivent, au lieu d'être sûr de faire tout mon programme et arriver à la fin, à l'examen final, et avoir des surprises. Je pense que là, sur la distance, cette question de l'évaluation formative, elle est vraiment encore plus importante qu'en présentiel.
Elle est importante. Et puis, quand on parle d'évaluation, en fait, il ne faut pas simplement se cantonner à la question des notes. Hein. Quand on dit évaluation, en fait, c'est le retour que l'enseignant il a au niveau de l'apprentissage des élèves. C'est-à-dire que ça peut être des choses très qui demandent beaucoup de travail, comme faire des QCM ou autre, mais ça peut être des choses très simples, comme faire des petits sondages pendant son QCM, poser des questions par mail ou sur les forums. Ça peut être juste prendre la température.
Il y a aussi des questions sur les étudiants qui ne participent pas aux activités ou qui n'interagissent pas pendant les séances. Donc, est-ce qu'il y a des conseils pour les gérer, en particulier du coup avec la dynamique de la distance?
Ben, déjà, si les étudiants ne participent pas, c'est déjà un signe. Et c'est là où, en fait, peut-être que par rapport à un moment, à un type de communication qu'on aurait habituellement qui serait focalisé uniquement sur le contenu du cours. Peut-être que simplement le fait de relancer ces étudiants-là par mail, ça peut avoir un impact important d'un point de vue psychologique. Si l'étudiant pense d'emblée que l'enseignant, de toute façon, il n'en a rien à faire de qui travaille ou qui ne travaille pas, le simple fait que l'enseignant puisse le relancer en lui disant « Tiens, c'est bizarre, j'ai vu que tu t'étais pas connecté sur la plateforme depuis un certain temps, est-ce que tu arrives à suivre le travail ?» Tout de suite, ça va le remobiliser, ça va le remotiver. Donc, ça peut être des choses qui peuvent être assez simples. Mais c'est une conduite un peu proactive.
Pour rebondir, il y a effectivement un terme que moi j'avais un peu en tête en préparant l'atelier. Et voilà, il n'est pas ressorti pour l'atelier. C'est ce qu'on appelle les techniques de rétroaction en classe. En fait, c'est toutes les techniques qui ont été imaginées et qui servent souvent en fait, pour dynamiser les amphis. Et du coup, il y a plein de conseils qui existent. Alors, je ne sais pas, Sarah et Saïda, Valérie, je ne sais plus qui devait faire et ou devra faire l'atelier sur ces sujets-là côté racine. Mais de mémoire, dans la littérature, il y a quand même pas mal de conseils qui sont, par exemple, de l'ordre de la bienveillance. C'est-à-dire quand on dit effectivement d'aller voir effectivement un étudiant, lui demander pourquoi il y a un problème, visiblement tu t'es pas connecté, il faut vraiment le faire dans un esprit de bienveillance. Si c'est perçu comme une attaque frontale de type allez toi tu vas aller au tableau, en fait c'est très très mal perçu et c'est complètement contre-productif. Dans les techniques de rétroaction en classe comme ça en amphi, souvent par exemple on propose plutôt justement de passer par une étape de travail en groupe. Donc des petits groupes, hein, 3-4, mais justement parce que du coup les réponses qui vont être apportées par le groupe sont anonymisées et qu'il y a moins ce côté effectivement engagement de la personne. Et donc c'est beaucoup plus facile d'engager les étudiants lorsqu'ils ont ce petit couvert entre guillemets de l'anonymité, l'anonymat du groupe en fait. Donc ça si le sujet effectivement vous intéresse, faut qu'on vous mette effectivement des liens et peut-être qu'on rediscute tout à l'heure. Dans la suite effectivement des prochains ateliers racine et en particulier je pense sur ces questions de rétroaction en classe.
Et puis inversement, il arrive parfois, on a eu des enseignants qui nous ont dit que quand ils ont fait des classes virtuelles, là où avant ils faisaient du cours en présentiel, ils avaient plus de participation. Plus de participation pourquoi ? Parce que quand on est en présence, les élèves, ils n'ont pas forcément envie de lever la main et de s'exposer devant tout le monde pour répondre. On a toujours les 5-10% d'élèves qui sont devant et qui vont poser toutes les questions. Or là, le fait d'être finalement derrière sa webcam, avec la webcam qui n'est pas forcément activée, et avec des moyens comme les sondages ou comme le chat, ça débloque peut-être certains élèves qui autrement n'auraient pas communiqué.
Alors, autour de l'évaluation encore, il y avait une question, parce que j'essaye de voir ce qui se passe dans le chat en même temps, sur comment s'assurer qu'une évaluation individuelle, elle est vraiment faite de façon individuelle. Je pense que là, c'est aussi un grand débat sur la question de l'évaluation et qu'est-ce que je veux faire derrière de cette évaluation-là.
Alors, il y a deux grandes pistes qu'on a eues pendant les évaluations à distance pendant le confinement. Soit on utilise un outil qui permet de multiplier les contraintes, je dirais, de telle sorte que l'étudiant n'a pas le temps, entre guillemets, de tricher, c'est-à-dire qu'on va avoir du temps limité, on va avoir des questions aléatoires, on va avoir une identification, alors peut-être certains outils de proctoring, c'est-à-dire avec la nécessité de s'identifier visuellement avec des webcams, etc. Outils qu'on va pas forcément conseiller parce que ça crée, on va dire, des difficultés techniques et puis de la pression supplémentaire pour les élèves. L'autre grande piste, c'est de proposer des questions ouvertes ou des questions qui sont complexes et qui demandent une véritable analyse. Avec un élément, avec un temps limité, le fait de proposer des questions qui sont plus complexes que ce qu'on aurait proposé habituellement, ça permet de vérifier qu'effectivement, on n'a pas un simple copier-coller de camarades.
Alors, il y a certains enseignants aussi, ce qu'ils ont fait, mais bon, bien sûr, ça demande du travail, c'est de proposer des sujets différents. C'est aussi, c'est, techniquement, c'est possible aussi sur les plateformes type Moodle qui sont utilisées par plusieurs établissements, c'est faire une répartition aléatoire des sujets pour les étudiants, mais ça demande pour l'enseignant aussi de travailler ces sujets-là. Et c'est aussi valable, je vois Sophie, mais par rapport au, aussi les QCM, c'est-à-dire de mettre en place des tests aussi avec des questions aléatoires différentes pour les étudiants.
Alors oui, il est possible d'avoir des banques de questions aléatoires. Alors plus vous avez des banques de questions qui comportent de questions aléatoires et plus vous avez statistiquement de chances que les élèves vont pas tricher. Et puis, il y a aussi la possibilité pour des questions numériques de définir des plages de valeurs aléatoires. Bon, là, c'est un peu technique, je ne vais pas développer, mais en gros, vous avez la possibilité d'avoir la même question pour deux élèves différents avec des valeurs différentes.
Alors, il y avait aussi dans les questions…
Peut-être juste pour réagir, je sais que j'avais vu à un moment donné un commentaire du coup que j'avais trouvé assez intéressant. C'est que les étudiants qu'on est en train de former quand même dans les écoles d'ingénieurs ou en tout cas enseignement supérieur, c'est quand même des gens professionnellement à qui on va demander beaucoup de travail en équipe, d'évoluer sur leurs compétences tout au cours de leur vie, etc. Et je pense que du coup, ça pose aussi la question effectivement des évaluations en fait, qu'on fait. C'est-à-dire que l'article, en fait, il finissait un petit peu sur l'idée que si jamais en fait on est obligé de surveiller que les étudiants ne trichent pas, peut-être ça veut dire qu'on se trompe en fait d'examen, parce que en réalité ce qu'ils auront à faire dans leur vie professionnelle, c'est justement de collaborer. Voilà, c'est vraiment juste une ouverture, parce que j'entends bien qu'il y a des choses qu'on va vouloir tester et que c'est pas aussi simple que ça, mais je trouvais que c'était du coup une approche qui était intéressante de se demander, mais professionnellement en fait, qu'est-ce qu'on attend des étudiants, et est-ce qu'effectivement mes examens ils vont dans ce sens-là ou pas.
Alors on a une piste aussi qu'on a explorée, notamment pour les étudiants en première année. Clairement, de toute façon, avec les outils de type Moodle, etc., et en ligne, on ne peut pas empêcher la triche à 100%. Donc, je suis d'accord avec une remarque qu'il y avait sur le chat sur le fait que on ne peut pas empêcher les étudiants d'échanger entre eux. Par contre, on peut rajouter des contraintes qui rend ça de plus difficile. Une dimension supplémentaire, c'est aussi de leur faire signer des chartes en fait de déontologie intellectuelle, en quelque sorte, c'est des grands mots, mais les responsabiliser aussi en amont sur le fait justement de dire vous n'avez pas intérêt à tricher, parce que finalement c'est vous qui vous sabotez vous-même, quoi. Et donc mettre l'accent là-dessus, c'est aussi expliciter cette dimension qui n'est pas toujours présente, dont les élèves n'ont pas toujours forcément présent. C'est-à-dire jouer le jeu, c'est aussi garantir que notre apprentissage, il est efficace, et pas simplement que je vais passer mon diplôme en ayant copié sur le camarade.
Voilà, on va passer à un autre sujet, parce que on aura sûrement on prévoit un atelier sur l'évaluation, parce que c'est un sujet effectivement très important et ça pose plein de questions. Moi, j'avais aussi dans les questions remarque sur par rapport au support, de créer des nouveaux supports. J'ai pas le temps, est-ce que je peux utiliser les mêmes supports? Et j'ai envie de dire aussi, il y a plein de ressources qui existent en ligne, notamment sur les MOOC. Je sais que certains enseignants ont fait cette démarche-là. Il y a pourquoi pas s'appuyer sur des ressources existantes, telles que des ressources dans des MOOC, voire les UNT, ce sont les universités numériques thématiques. Il y a l'UNIT qui est pour les sciences de l'ingénieur. Et dire pourquoi pas aussi s'appuyer, c'est des ressources qui sont très bien faites d'ailleurs, pour s'affranchir de cette problématique-là, de revoir tous mes supports et de refaire tout, surtout par rapport à une contrainte de temps.
Oui, et puis surtout ne pas se mettre la pression, c'est-à-dire que si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, hein. Et faire des supports en fonction du temps dont on dispose. Par exemple, si on n'a pas de polycopier et si on n'a que des slides, la façon la plus rapide de transformer un support de cours en support d'apprentissage, c'est de faire des slides annotés ou de faire du slide sonorisé et pas forcément des vidéos avec ce que ça demande en termes de montage.
Il y a également une question qui vient d'être posée sur le fait qu'on avait eu la chance de connaître nos étudiants avant le confinement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut, quel point particulier ou qu'est-ce qu'il faut anticiper pour la rentrée où manifestement tous les primo-entrants, on ne les connaîtrait pas?
Alors ça c'est une question très importante. Effectivement, quand on était dans la phase du confinement, un des éléments qui a pu jouer, on va dire, en faveur de la distance, c'est que les élèves avaient déjà eu un certain nombre de séances en présentiel. Et ça, effectivement, c'est quelque chose à ne pas du tout sous-estimer. C'est-à-dire, moi, je vous conseille effectivement d'essayer d'organiser des activités de groupe, même peut-être un peu informelles, si vous pouvez, mais en tout cas, ou une séance zéro, une séance d'introduction, où vous essayez de prendre connaissance de qui vous avez en face de vous. Ou alors de demander aux élèves une activité un peu de socialisation, comme ce qu'on vous demandait au début de l'atelier, quand on vous demandait de vous présenter. On a certains masters spécialisés qui demandent aux étudiants, avant qu'ils arrivent, de faire par exemple des petites vidéos de présentation pour que chacun connaisse à qui il a affaire.
Oui, moi j'avais suivi un webinaire il y a 2 jours avec Didier Paquelin de l'Université Laval, qui ont une expérience importante dans la formation à distance, mais c'était un point très important et on va dire vraiment auquel il faut faire attention, c'est l'accueil des étudiants qui viennent d'arriver. Et eux, ils prévoient quand même de prévoir des modalités d'accueil en ligne et qu'ils renforcent la communication et aussi le mentorat, c'est-à-dire de faire beaucoup plus de mentorat, de faire appel aux anciens étudiants pour accueillir les nouveaux et les prendre en charge et les suivre sur l'année.